Hello, bienvenue sur le podcast Intention. Je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors, vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous une vie saine c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel. À travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement, vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode.
Coucou Isadora.
Coucou Marisa, coucou Hélène.
Coucou.
Bonjour Hélène, ravie de t'avoir avec nous dans cet épisode. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir, mais concordance d'agenda, on n'arrivait pas trop à savoir, ni toi ni nous, bref. Donc là, on est hyper contente de reprendre cette nouvelle saison, la quatrième, avec toi en invité pour le deuxième épisode. Et on va parler avec toi de ton rapport avec l'alimentation saine, avec l'hygiène de vie en règle générale, parce que ce qui est intéressant avec ton parcours et ce que tu partages en tout cas sur tes réseaux sociaux, c'est que tu es dans le cheminement pour aller vers une alimentation plus saine. Et tu n'es pas au bout, par exemple, comme certaines personnes qu'on a pu interviewer qui sont là depuis, enfin, qui sont dans une alimentation saine depuis des années. Toi, tu es en chemin, donc c'était intéressant de pouvoir parler avec toi et que nos auditeurs puissent aussi avoir un autre discours que le nôtre, où nous, on a l'impression parfois que comme on est tellement dans l'alimentation saine, c'est une habitude, parfois on oublie que c'est pas l'habitude de tout le monde.
Et voilà, et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger, toi, sur les difficultés que tu rencontres au quotidien dans ce cheminement, mais aussi tes découvertes, les choses qui ont changé ta vie. Enfin voilà, comme ça, ça peut aider les gens qui, eux, sont aussi, comme Isadora disait, dans ce cheminement. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, t'as plein de gourous d'alimentation saine, hein, dont on fait partie, les relous, là, qui font croire que tout est parfait, là, que nous, regardez ce qu'on mange, tout est bien. Mais parce que nous, ça fait tellement longtemps qu'on a entamé ce rééquilibrage alimentaire que... Et puis nous aussi, on en parlera, mais nous, on a une éducation alimentaire qui est déjà quand même très, très imprégnée en nous. Donc c'est vrai que l'intérêt de cet épisode, c'est que les personnes se reconnaissent aussi dans un parcours où les gens sont en même temps dans ce parcours, en même temps que toi. Donc c'est intéressant.
Et du coup, Hélène, parce qu'on parle, on parle, on parle, mais qui es-tu, Hélène ? Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, qui tu es sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que tu es très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et qui tu es, après on ira plus loin plus tard, mais au moins déjà, dis-nous un petit peu ton CV. Allez, tu as 5 minutes.
CV. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 36 ans, j'habite à Strasbourg, en Alsace. J'ai deux casquettes, je vais pas dire le jour et la nuit, mais... Presque.
Batman.
Gestionnaire de formation dans un OPCO le jour et comme on aime appeler ça, une influenceuse la nuit et parfois la journée aussi. Et du coup, je partage mon parcours notamment de perte de poids sur YouTube. Moi, je préfère YouTube à Instagram. Et donc voilà, je fais ça depuis 3 ans maintenant.
Pour quelle raison tu as décidé de créer ta chaîne YouTube et partager, parce qu'en fait sur ta chaîne YouTube tu fais des weekly vlogs, comme on appelle ça dans le jargon youtubesque, c'est-à-dire que tu fais un vlog, tu postes une vidéo dans la semaine qui retrace toute la semaine précédente, ces vlogs-là tu les appelles challenge perte de poids. Pourquoi tu as décidé de créer une chaîne YouTube et de partager justement ce challenge perte de poids toutes les semaines ?
J'ai décidé de créer cette chaîne parce que j'étais déjà très consommatrice de vidéos YouTube et mon copain il m'a dit pourquoi pas faire des vidéos. Donc j'avais commencé vraiment axé sur la perte de poids. Je parlais de tout et rien. Et puis, à force de faire des vidéos... Alors, j'avais fait une grosse pause parce que j'avais eu une fausse couche entre-temps et du coup, j'avais plus trop envie de faire des vidéos. Et justement, lors de cette fausse couche, j'ai repris beaucoup de poids parce que je l'ai très mal vécu. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je partagerais pas ? Parce que c'était beaucoup plus la mode sur Instagram, les partages perte de poids. Et il n'y avait pas grand-chose sur YouTube. Je me suis dit, mais pourquoi je ne le ferais pas? Ça me motiverait. J'aurais peut-être des tips de gens. Enfin, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas le faire? Je le tente. Si vraiment, je vois que bah, ça ne me correspond pas, bah, j'arrêterai. Ce n'est pas grave. Et puis, bah, finalement, bah, ça fait 3 ans que je fais ça. Toutes les semaines.
Ah oui, en effet, ça fait longtemps. Et tu disais tout à l'heure, encore une fois, quand nous avions enregistré précédemment, tu disais que tu disais tout à l'heure qu'en 2013, on t'a découvert une deuxième pathologie. Pourquoi, c'était quoi la première ?
Bah, l'obésité, les troubles du comportement alimentaire. Donc ça, depuis toute petite. Alors qu'en fait, j'avais aussi une autre pathologie qui m'a fait prendre énormément de poids en peu de temps. Et je ne la connaissais pas du tout et je pensais que c'était dû à l'alimentation alors qu'en fait, bah, pas vraiment.
Donc quand tu as appris que tu avais le lymphodème, toi tu ne le savais pas avant parce que moi je ne connais pas cette maladie. Moi je pensais que c'était une maladie qu'on avait depuis qu'on était petite. Est-ce que tu l'as toujours eu et on te l'a découvert en 2013 ou est-ce que c'est arrivé et est-ce que tu saurais expliquer comment ça arrive ce type de maladie? Est-ce que c'est aussi cette maladie?
Alors ça dépend vraiment des gens. Alors moi ça aurait commencé parce que ça reste de la supposition avec un lipodème, donc qui est un peu plus connu aujourd'hui que le lymphodème. Et comme j'ai entre guillemets laissé traîner, mais je savais pas que j'avais cette maladie là, ça s'est transformé en lymphodème. Donc le lymphodème, pour les gens qui ne connaissent pas cette maladie, c'est la lymphe qui ne circule pas bien. Moi, personnellement, dans les membres inférieurs et qui ne sont pas drainés correctement par les ganglions. Et donc, du coup, je stocke tout dans mes jambes. Mais il y a des femmes qui ont des lymphœdèmes au bras. On peut en avoir même dans le visage, hein, du lymphœdème. Au niveau du bras, c'est notamment des femmes qui ont un cancer du sein et donc qui n'ont plus les ganglions au niveau des aisselles. Et donc, il n'y a plus de drainage. Donc, elles portent des manchons pour un peu tenir toute cette lymphe, quoi.
C'est fou ça. Il me semble que c'est une autre influenceuse qui avait. C'est pas Amy qui. Voilà.
Michael Pro qui a l'hypodème.
Ah, qui a le lipodème, d'accord. Parce que je me souviens qu'à l'époque, ça avait fait toute. Elle en avait beaucoup parlé et je m'étais dit, ah, je connaissais pas du tout cette maladie, d'accord.
Ouais, et du coup, à chaque fois, on venait me dire, mais t'as pas plutôt un lipodème? Et en fait, j'ai eu un lipodème d'abord, apparemment. Moi, je dis, enfin, ce que les médecins m'ont dit, hein, parce que pour trouver aussi des médecins compétents dans ce domaine-là, c'est compliqué. Donc, j'aurais d'abord eu un lipodème qui a dégénéré en lymphodème.
D'accord, ok. Et si on revient à la petite Hélène, là, on repart donc. Un peu plus de 36 ans en arrière. Non, un peu moins de 36 ans. N'importe quoi. Un peu moins de 36 ans en arrière. C'était qui la petite Hélène en termes d'éducation alimentaire? On va pas partir dans les méandres de ta vie privée, tout ça, mais en éducation alimentaire, la petite Hélène, est-ce que t'as des parents qui t'ont transmis une éducation alimentaire? Ou est-ce que chez toi, c'était... Ouais, bref, comment c'était chez toi, à table, votre alimentation, tout ça? Comment c'était perçu l'alimentation dans ton foyer?
Alors, c'était pas quelque chose de très important. Ma mère, ça, sait très bien cuisiner, mais elle n'aime pas ça. Donc, elle ne m'a jamais transmis le savoir qu'elle avait sur la cuisine. J'ai appris tardivement à me faire cuire des pâtes. Hein. Mais non, effectivement, j'ai pas grandi avec les petits plats faits maison. J'ai eu plutôt une alimentation industrialisée, même si parfois ma mère faisait à manger. Voilà, elle le faisait bien, mais c'était plutôt rare parce que elle travaillait aussi beaucoup. Donc, elle faisait des 12 heures par jour. Elle avait ses enfants à charge. Donc, voilà, ça. Quand on est toute maman solo, c'est compliqué.
Non, c'est sûr. Et t'as une sœur, et c'est une petite sœur que tu as ?
Oui, une petite sœur de 8 ans et demi de moins.
Et les repas, c'était... Du coup, tu dis que c'était une alimentation industrialisée. Les repas, ça se passait comment dans ton foyer ? C'était des repas à table ? C'était avec ta maman ? Comment vous organisiez ?
Oui, ça a toujours été, par contre, des repas à table, à horaire fixe. Ça, il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas de souci, mais après, au niveau du contenu de l'assiette, c'était des carottes râpées plutôt en achetées tout prêtes que des faites maison, quoi.
Tu disais tout à l'heure, du coup, que tu étais atteinte d'obésité, que c'était ta première pathologie. À quel moment ça s'est déclaré? À quel moment tu t'es rendu compte, ou avec ta mère certainement, ou avec tes parents, que là, il y avait une pathologie qui arrivait, Hélène, elle est obèse. Qu'est-ce qui s'est passé?
Moi, je m'en suis rendu compte vraiment quand je suis rentrée à l'école, parce que les enfants entre eux, ils sont pas cool, déjà dans les années 90. Hein. Donc, c'est vrai aussi quand je voulais m'acheter des vêtements, que je rentrais pas dedans. Voilà. Après, c'est vrai que de par ma situation familiale, j'ai pas fait attention à ça et du coup, c'est vrai que l'alimentation, c'était un peu là où je me réfugiais. Ça me faisait beaucoup de bien de manger, je mangeais en cachette, voilà. J'ai encore, je pense, des vrais troubles du comportement alimentaire depuis vraiment, toute petite. Hein. Franchement, je ne pourrais même pas vous donner un âge tellement ça fait très très longtemps.
Quoi. Et toi, au fur et à mesure de la vie, tu penses que tes troubles de comportement alimentaire sont venus de quoi ?
Je pense de mes soucis familiaux, voilà, parce que j'ai un papa, un papa absent qui nous a même pas reconnus à la naissance, une maman qui travaillait beaucoup. C'est pas bien de reprocher ça, mais c'est vrai que quand on est petit, on voit pas beaucoup sa maman, on passe beaucoup de temps au centre après l'école. Après, elle a toujours essayé de faire son maximum, hein, dans le sens où pendant les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires, je partais 3 semaines en colo et après je partais 3 semaines en vacances avec elle. Donc voilà, j'étais jamais à la maison pendant les grandes vacances. Ça, c'est une chance aussi, hein, parce que tout le monde ne part pas en vacances. J'ai aussi grandi dans le 93. C'est pas un endroit rempli de verdure. Voilà, c'est aussi le contexte de la ville qui fait que j'ai pas eu une enfance. Je garde pas un bon souvenir de mon enfance et de mon adolescence. Et c'est vrai que je pense que l'alimentation, même si aujourd'hui j'en pâtis, elle m'a beaucoup aidée à surmonter plein de choses. Aussi mauvaise qu'elle eût été, hein. Mais ça m'a beaucoup aidée.
Parce que ta mère, elle ne te voyait pas du coup... Ce qu'elle proposait à table, pour elle, devait suffire. Elle ne te voyait pas manger spécialement entre les repas, grignoter. Elle ne voyait pas tout ça.
Non, je cachais. Elle m'envoyait chercher un truc à l'épicerie. Et puis, j'en profitais pour acheter une tablette de chocolat et je la mangeais en cachette. Enfin, voilà, c'était...
Après, je tiens juste à te préciser pour cet épisode, mais pour tous, en règle générale, on n'est pas du tout là pour taper sur les parents. Tous les parents font du mieux qu'ils peuvent, et ça, c'est évident. Mais c'est toujours intéressant, je trouve, pour nous. Et moi, c'est un truc que je pose très souvent aux gens quand on parle d'alimentation, de savoir quelle est l'éducation alimentaire, parce que, mine de rien, ce qu'on transmet à nos enfants, c'est aussi leur bagage pour leur vie d'adulte. Donc, c'est hyper intéressant, mais sans aucune culpabilité ou culpabilisation du rôle de parent. C'est une lourde tâche que d'être parent. On fera tous des erreurs, on en fait tous. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment ça se passe dans les familles, niveau alimentation, parce que quelque part, quand on est enfant, on reproduit ce que nos parents nous montrent. En fait, on mime complètement ce que font nos parents et ça va se répercuter. On va remimer ça pendant des années, des années, des années. Donc, à un moment donné, c'est chouette de se dire, est-ce qu'on peut casser quelque chose ? Et toi, c'est ce que tu fais quelque part en prenant une vie plus saine, en essayant d'aller sur un chemin d'une vie plus saine. C'est aussi casser un petit peu ce bagage, mais c'est plus long.
Oui, c'est ça. Après, comme je dis souvent... je ne vais pas pouvoir gommer en deux temps, trois mouvements des années, des décennies de mauvaise alimentation, de mauvais réflexes. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont ancrées, c'est des choses pour lesquelles il faut être accompagné, c'est des choses... on ne fait pas ce que les réseaux essayent de nous montrer aujourd'hui, de tout perdre en un rien de temps. Ça, c'est... En tout cas, pour moi, et je le redirai jamais assez, tout ce que je dis n'engage que moi. Et mon ressenti en tant que personne malade de l'alimentation, malade de troubles du comportement alimentaire, c'est très compliqué de s'en défaire. C'est très compliqué aussi de prendre conscience des choses. Et c'est là aussi où le suivi avec quelqu'un en qui on a confiance est important. Je pense que tout seul, c'est compliqué. Et moi, en tout cas, je suis très contente d'être suivie par ma diététicienne qui a cette facette psychologique qui ne nécessite pas chez moi d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, parce que j'en ai vu pléthore, hein, des psychologues et des psychiatres, et ça n'a jamais fonctionné avec moi. Elle a un peu ces deux casquettes, et du coup, c'est vrai que sur des choses toutes simples du comportement alimentaire au quotidien, elle réussit à me faire prendre conscience de choses, genre par exemple, bah hier j'avais plus faim, j'ai arrêté de manger. Avant, j'aurais fini mon assiette. En me disant, je vais pas gâcher, en me disant, mais j'aurais peut-être faim après. Voilà. Alors que hier, je l'ai arrêté. Et ça peut sembler bizarre ou vraiment anodin pour des gens. Et pour moi, en fait, c'est une grande victoire. Du coup, j'étais contente. Tu as posté une photo sur Instagram.
Non, mais c'est, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que quand ça fait des années qu'on a une alimentation qui est déséquilibrée, que ça remonte à la plus tendre enfance, c'est évidemment beaucoup plus long de reprendre une alimentation ou de commencer une alimentation saine. Et c'est quelque chose que Karine, notre sœur, disait tout le temps aussi sur la plateforme Intention à nos membres qui nous disaient « Oui, mais moi, ça fait 6 mois que je suis là et c'est toujours compliqué. » Mais elle disait « Mais c'est normal parce que ça fait... C'est parfois des déséquilibres alimentaires qui datent de quand j'avais 2 ans et des membres, elles avaient parfois 50 ans. Donc, quand tu veux reprendre une alimentation saine à 50 ans, ça se fait, mais bien évidemment, ça se fait et heureusement. Mais c'est sûr que c'est un peu plus long et c'est important que tu le dises justement pour éviter que les gens imaginent que, comme on voit sur les réseaux, no pain, no gain, mon avant-après à date d'il y a même pas 6 mois. Mais combien de temps ça va durer ? Quelle est la durée de cette transformation, entre guillemets? Est-ce qu'on veut une transformation qui sera toute la vie ou le temps d'une photo Instagram? Donc, je comprends tout à fait quand tu dis que c'est plus compliqué et que tu apprends tous les jours encore à avoir des réflexes de comportement alimentaire un peu plus... j'ai envie de dire normaux, mais j'aime pas ce terme-là. Mais c'est vrai que pour quelqu'un... Moi, je vois mon conjoint. Mathieu, c'est un très bon exemple, parce qu'il me surprend, mais même moi, quand j'ai une assiette en face de moi, c'est hyper rare que je me dise « j'arrête de manger parce que j'ai plus faim ». Moi, je vais finir mon assiette, et après, je vais me dire « j'ai trop mangé ». Ça, c'est un truc qui peut m'arriver très souvent. Mon conjoint, lui, moi, ça me fascine à chaque fois, on mange ensemble, et il va me laisser genre, je sais pas moi, 4 frites. Moi, je vais lui dire « bah, fini ». Il me dit « bah non, j'ai plus faim ». Et moi, parfois, je le force, hein, je lui dis « attends, tu vas pas laisser 4 frites, ça se congèle pas, ça se garde pas pour le lendemain, on va pas laisser 4 frites ». Et il me regarde à chaque fois, il me dit « Isadora, je ne veux plus manger, je n'ai plus faim, je n'ai pas envie de manger, donc je vais pas manger ces 4 frites ». Et ça, c'est un truc, moi, qui me fascine, parce que ça prouve à quel point il est conscient de ce qu'il est capable de manger, et il sait s'arrêter à un moment donné. Et tout le monde ne sait pas faire ça. Et moi, la première. Hein. Après, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais des assiettes un peu plus petites, quitte à me resservir. Mais si j'ai une assiette qui est remplie et qu'il faut que je finisse, je la finirai.
Bah, il a gardé un peu son côté enfant. Oui. Les enfants savent très bien. À la base, les enfants, quand on leur donne à manger, c'est très, très incroyable de les regarder d'ailleurs.
Oui, c'est facile.
Parce que ils disent « je n'ai plus faim ». Enfin, ils poussent l'assiette, ils arrêtent de manger. Et ça, c'est un réflexe que... Nous, en tant qu'enfants, on a tous eu un jour ce truc de dire « je n'ai plus faim », qu'ensuite, voilà, tout la société, la vie, quand tu commences à devenir, voilà, les émotions, etc., font que tu perds totalement ce truc instinctif qui est de base de s'arrêter de manger quand tu n'as plus faim, ce qui est normalement totalement humain. Mais toi, Hélène, ce qui était aussi intéressant, c'est, tu disais tout à l'heure, quand tu étais enfant, du coup, à l'école, c'était pas facile. Je ne peux qu'imaginer. Ta vie d'adolescente et de jeune adulte, ça s'est passé comment par rapport à le regard que tu avais sur ton alimentation et sur ton poids, sur ton corps? Comment tu le vivais?
Bah, ça a été toujours compliqué parce que c'est vrai. Alors, je ne sais pas s'il y avait des quotas, mais c'est vrai que dans les classes, j'étais toujours la seule bien enrobée, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y avait une distribution. Non, je ne pense pas, mais c'est vrai que j'étais seule, surtout au collège. Beaucoup raillé, beaucoup moqué. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pas mal me suivent sur Instagram aujourd'hui.
Toujours la base.
Mais oui, ça, c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, j'ai 36 ans, je vieillis, voilà. Je prends de l'âge, mais je suis complètement plus heureuse aujourd'hui qu'il y a 15 ans, quoi. Et plus le temps passe et plus je suis contente de vieillir finalement parce que. J'ai repris ma vie en main et ouais, non, l'école, ça a été très compliqué pour moi. Le premier jour de sixième, je me souviens, j'étais venue avec une robe qui arrivait aux genoux et j'avais un cartable à roulettes. Mais sauf que quand on va au collège, il faut mettre un sac à dos. Ah bah j'en ai pris pour mon grade, hein. Du fait que j'avais un cartable à roulettes, une robe rouge, bah, elle n'était pas très jolie. Bon, ma mère, elle ne roulait pas sur l'or non plus. Mais voilà, moi, j'étais contente de mes affaires, mais ça ne plaisait pas à l'ensemble des collégiens parce que je n'étais pas à la mode, quoi. Bah, après, je n'ai jamais été vraiment à la mode, moi.
Nous non plus. On se rappellera toujours de la paire de chaussures de notre mère qu'elle nous a offertes. Nous habitions au Maroc et le Maroc c'était quand même le pays un peu de la contrefaçon. Il y avait quand même beaucoup et donc ma mère nous avait acheté.
Non, c'est moi qui ai choisi.
Non, toi, Isidora a choisi une paire de chaussures et comme on était tellement nul en mode, Isidora a acheté une paire de chaussures. Elle était très contente d'arriver à l'école avec
des Adidas parce que moi j'ai acheté des Adidas parce qu'il y avait des bandes sur les côtés. Donc moi j'étais hyper fière pour une fois d'être à la mode. J'arrive à l'école et là tout le monde se moque de moi. Je comprends pas pourquoi. J'avais 4 bandes, mais ça j'ai appris du coup qu'il y avait 4 bandes et que ça s'appelait et j'avais une paire de chaussures au pied qui s'appelait Adidas et non pas Adidas. Est-ce que moi je l'ai vu ? Non, parce que j'étais même pas au courant de la mode, je savais même pas que c'était Adidas la marque.
Et ça aussi au collège, ça ne pardonne
pas.
Non,
ça pardonne
t'arrives, pas. T'es foutu.
Et va dire à ta mère que la paire que tu as saoulée pour qu'elle t'achète, tu veux plus jamais de la mettre.
Ouais.
Waouh. Bah bon courage. Bon courage à vous, les amis.
Non, c'est vrai que c'est cruel, mais encore aujourd'hui, hein, pour beaucoup d'enfants, on voit beaucoup de témoignages de personnes qui se font harceler.
Et encore, nous, on n'avait pas les réseaux sociaux, et c'est notre grande chance.
Heureusement.
Aujourd'hui, c'est encore pire avec les réseaux sociaux. Et est-ce que toi, on se moquait de toi par rapport, du coup, à ton poids ? Est-ce qu'on se moquait de toi frontalement ? Et quand tu es jeune, tu as 15, 16, 17, 18 ans, tu vois que tu es différente de l'autre à côté de toi. Est-ce que tu te dis, je vais faire un régime drastique ? Est-ce que tu es rentrée dans ce truc-là de vouloir perdre du poids, par exemple, très vite, faire des régimes à gogo, des choses comme ça ?
Oui, j'ai essayé la soupe aux choux, la célèbre. J'ai essayé plein de choses. Ma mère aussi a essayé de me faire maigrir. Mais je pense que tant qu'on ne l'a pas décidé, ça ne marche pas. Après, je ne m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune. J'ai eu aussi un autre souci quand j'étais plus jeune, c'est que la fille n'a que des soucis. J'ai souffert d'énurésie, donc j'ai fait pipi au lit jusqu'à 14 ans. Donc ça aussi, c'est compliqué, on ne peut pas dormir chez les copines. Voilà, ça aussi, c'est un traumatisme. Donc j'avais une machine horrible. Qui sonnait et qui allumait la lumière si je faisais pipi pendant la nuit.
Ah ouais, c'est, ouais. C'est
et je devais valider en pleine nuit à 12 ans si c'était de la taille d'une soucoupe, d'une assiette, d'un bol, voilà. Voilà. Donc ça aussi
tu penses que ça vient de tes émotions, tu penses que ça vient aussi de ça, de cette enfance qui a été compliquée.
Totalement. Oui, je les ai un peu accumulées. Je pense que ouais, mon corps a été un bouclier pour tous ces soucis-là, ouais, effectivement.
Et ta mère, qu'est-ce qu'elle elle te voit grossir ? Ta petite sœur, elle, comment ça se passe ? Est-ce qu'elle grossit aussi ? Est-ce que ta mère, est-ce qu'elle a aussi une pathologie d'obésité ou non ? Est-ce que ta mère, voilà, quand elle voit sa petite fille grossir, prendre du poids, elle se dit quoi ? T'arrives à en parler, toi, en plus que tu te fais victimiser à l'école ? Est-ce que t'arrives à lui ouvertement lui dire ?
Moi, on n'en parle pas vraiment. Après, c'est vrai que dans ma famille, on a tous tendance à facilement prendre du poids. Il y a des personnes qui peuvent... Par exemple, mon frère, on n'a pas le même père. Lui, il pouvait manger des casseroles et des casseroles de pâtes, il ne prenait pas un kilo, quoi. Que si moi, je mange comme lui, j'en prends 10. Je grossis le trait, mais voilà, on n'avait déjà pas la même composition corporelle. Donc, c'est vrai que dans ma famille, on a tendance à prendre du poids facilement. Mais non, c'est vrai qu'avec ma mère, on n'a pas eu beaucoup de dialogue quand j'étais petite. Après voilà, c'est vrai que je parlais pas beaucoup, je pense non plus.
Et ta sœur ?
Ma sœur, elle a une enfance différente dans le sens où ma mère a beaucoup idéalisé ma sœur. Donc ma sœur c'était un peu l'enfant parfait. Donc elles ont pas du tout la même relation que moi j'ai avec ma mère ou que mon frère même avec ma mère. Mais voilà, après il y a eu d'autres soucis que j'évoquerai pas sur internet par respect pour ma mère, mais effectivement ça a été plus compliqué pour moi que pour ma sœur. Après, ma sœur, au niveau du poids aussi, elle prend du poids facilement si elle ne fait pas attention, clairement.
Et donc, à quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui a été, entre guillemets, hein, le déclic ? Karine déteste quand je dis le déclic. Juste pour rappel, quand, bah, moi, je dis souvent ce mot, c'est vrai que c'est un mot, on vulgarise tout, de toute façon, aujourd'hui. Donc, on dit, c'est quoi ton déclic pour perdre du poids ? Karine dit toujours, il n'y a pas de déclic, en vrai. Il n'y a pas de, un jour, on se réveille et, oh, tiens, je perds du poids. C'est une accumulation d'informations, de connaissances, de choses qu'on entend, des médecins qui nous disent des choses, etc., qui font qu'au fur et à mesure, à force d'entendre plusieurs choses, on se réveille un matin en se disant bah, « aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelque chose ». Donc, c'est quoi, toi, ton déclic ?
Ça a été le lymphœdème, clairement, parce que la lymphe est sortie de mes jambes, en fait. Donc, j'avais des pansements, j'avais des orifices qui s'étaient faits sur mes jambes, et la lymphe sortait de mes œdèmes au niveau
c'est
des
quoi,
jambes.
Ça ressemble à quoi de la lymphe ?
Bah, c'est un peu un liquide visqueux jaunâtre. Et donc, ça, j'avais trois pansements parce que j'avais trois ouvertures sur les jambes. Mais là, je me suis dit, non, en fait, il faut que je fasse quelque chose.
Parce que le lymphœdème est corrélé avec l'obésité ou est-ce qu'on peut avoir un lymphœdème sans être obèse ?
On peut avoir un lymphœdème sans être obèse. Mais moi, la taille de mes jambes était telle que je pense mes jambes, elles ne pouvaient plus garder ça pour elles, entre guillemets. Et peut-être que mon corps a voulu aussi me lancer un signal, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose.
Bah, moi, je pense que ton corps, comme moi, je dis toujours que notre corps, c'est notre meilleur ami. Il est là pour ton bien, il n'est pas là pour ton corps, il n'est pas là pour te détester. C'est ton corps, donc il est là. C'était vraiment un signal d'appel qui disait... Au secours, là, je souffre. Il faut que je lui montre d'une autre façon, puisqu'elle n'a pas vu le lipodème et tout. Il faut que je lui montre une autre façon de lui montrer que là, il y a quelque chose à prendre en... Comme Isadora, quand elle a ses... Isadora aussi, elle a un corps qui lui parle beaucoup. Quand elle a sa phlébite, Isadora, maintenant, elle a... Automatiquement, elle sait que...
Ah, oui.
Mon corps me dit, Isadora, t'as une phlébite. Encore une fois, il y a un truc sur lequel tu dois travailler parce qu'il y a... Il te crie
je suis pas, en fait. Moi, il me crie que je suis pas en équilibre.
Oui.
Et que je parle d'équilibre dans ma vie perso, pro, santé, etc. Donc, à un moment donné, c'est vrai que le corps, il parle. Et parfois, on se dit, oh, je le déteste. Mais en fait, lui, il nous aime tellement qu'il nous dit, et parfois pas de la meilleure façon, parce qu'on ne l'a pas entendu. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là que tu t'es dit, j'aimerais avoir une alimentation plus saine ou j'aimerais perdre du poids ?
J'aimerais me sentir mieux dans mon corps et moi je perds pas du poids pour ressembler à Jessica Alba. J'ai envie d'avoir un poids santé où quand je me lève, bah je peux, enfin quand je m'assois par terre, je peux me lever sans devoir m'appuyer sur le canapé ou des choses comme ça. Il faut savoir que quand j'avais mon lymphœdème, donc au tout début, je pesais 225 kilos et je ne marchais quasiment plus. Je sortais plus de chez moi. Je sortais plus, je faisais livrer les cours, je ne sortais plus. Je peinais à aller aux toilettes, juste d'aller aux toilettes. Hein. Je n'arrivais plus à dormir assise. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un état... Ouais, je pense que là, si j'avais continué, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler, je pense. Hein. Très honnêtement.
Mais c'est intéressant parce que là, c'est motivation au changement qui est intéressante. Parce que c'est vrai que quand j'ai perdu mon poids il y a 8 ans, bah, ma sœur, c'est Karine, c'est une diététicienne. Donc, quelque part, moi, j'ai toujours cette petite voix de ma sœur qui va me poser la question « Ah tiens, pourquoi tu fais autant de sport ? Pourquoi tu manges comme ça ?» Parce qu'au début, il y avait un but. J'avais la maladie de Crohn, il fallait que je change un peu mon hygiène de vie. Et après, ça s'emballe et tu perds de plus en plus, etc. Et moi, je lui disais des phrases, mais en plus, maintenant, je me dis... je disais des trucs du style... Oui, c'est pour ça que j'aurai un bel avant-après. Parce qu'elle était en plus au début d'Instagram, hein, tu sais. Un bel avant-après. Et puis, elle me disait... C'est ça ta motivation au changement ? Parce que c'est pas une motivation sur le long terme, en fait. Une motivation... Et moi, je dis, bah, c'est quoi une motivation au changement ? Bah, moi, mes patients, ça va être une grand-mère qui est obèse depuis des années et qui souffre de pas pouvoir courir derrière ses petits-enfants quand celle qui les garde, des choses comme ça. Et ça, c'est une motivation suffisamment importante qui fait qu'elle ne lâchera pas jusqu'au bout. Et toi, tu dis, voilà, c'est... pouvoir se poser par terre, se relever.
Bah tu vois, typiquement, si on rentre dans l'intimité aussi de nous, nous, on a un père qui a été en surpoids pendant quelques années. Et c'est vrai que quand nos filles sont nées, oui. Moi, là, j'ai commencé vraiment à tirer la sonnette d'alarme parce que notre père était une personne qui mangeait beaucoup. Nous, on le voyait, évidemment, hein, ça se voit, évidemment. Et c'est vrai que quand nos filles sont nées, là, on a commencé à dire, papa... Nous, on veut que tu vives longtemps pour voir nos filles peut-être un jour se marier, peut-être un jour, bref, rester avec nous. Parce que c'est vrai que notre père, il est diabétique, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, il est diabétique, il a du cholestérol, il a la goutte très régulièrement, etc., etc., etc. Moi, je me disais, attends papa, dans pas longtemps, tu peux nous faire une crise cardiaque et c'est fini. Et lui, sa motivation au changement, ça a été clairement
nos filles.
Lui, c'était je veux vivre le plus longtemps possible pour que voir mes filles. Et il a fondu et... En même temps, il a arrêté son travail parce qu'en fait, il s'est rendu compte que son métier le lui plaisait pas du tout et que manger, bah, c'était son réconfort, en fait, tout simplement.
Et puis pareil, hein, comme toi, hein, ou comme nous tous, quelque part, une éducation alimentaire. Alors, pas alimentation, c'est plutôt une éducation où tu en manques. Lui, c'était un peu un manque d'amour. C'est un Africain, donc l'amour ne se montre pas du tout de la façon où aujourd'hui, avec la parenté positive, on a l'impression qu'il faut toujours faire des câlins. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, lui, il mangeait comme un réconfort, comme une sorte d'amour, en fait. Et ça lui a duré des années. Et c'est vrai que là, depuis nos filles sont là, il a perdu énormément de poids. Mais surtout, il me disait tout... En plus, il me l'a dit il y a quelques jours, là, je n'ai plus jamais fait de goutte. Je n'ai plus mon diabète qui est au taquet.
Et les migraines, parce qu'il était très, très, ouais. très migraineux tout le temps. Et nous, on lui disait, mais... Et comme nous, c'est notre métier, et que nous, on connaît, on sait le pouvoir de l'alimentation saine dans une vie, à quel point ça peut vraiment tout changer. Mais il l'écoutait pas, parce que lui, il avait... C'était, laissez-moi manger ce que je veux. Parfois, on s'engueulait à table, ouais, on s'engueulait ouais. beaucoup à table à cause de ça, parce que moi, je voulais juste pas que mon père meure, tout simplement. Et que lui, il ne voyait pas cette tristesse que j'avais, cette peur que j'avais. Et maintenant qu'il y a eu nos filles, c'était vraiment pour lui une vraie motivation au changement de moi, je vais pas mourir maintenant. Et quand je dis mourir, c'est je suis pas dramatique en le disant, quoi. Vraiment, on a eu vraiment peur, quoi. Donc, c'est des belles motivations au changement quand c'est au-delà juste de vouloir avoir un maillot de bain sur la plage cet été. Ça n'a rien à voir là.
Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est d'avoir toutes les possibilités qui s'offrent à moi dans la vie. Voilà, je sais que j'aurai jamais un corps parfait, j'aurai toujours des cicatrices. Enfin, mon lymphœdème va laisser des traces, c'est certain, mais je m'en fous. J'ai toujours dit, je rêve d'avoir juste des jambes droites. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elles sont pleines d'œdèmes, c'est handicapant concrètement. Hein. J'ai beaucoup de pertes d'équilibre, enfin, c'est compliqué à vivre. Mais moi, je veux avoir des jambes droites. Voilà, c'est mon rêve de pouvoir mettre un pantalon sans devoir me plier. Quand je prends ma douche, quand je sors de ma douche, il faut que je prenne 10 minutes pour essuyer tous les plis. Enfin, voilà, c'est pas. Je veux plus tout ça aujourd'hui. Voilà.
Et concrètement, du coup, quand t'as vu la lymphe qui sort, etc., et tu te dis, voilà, je veux me reprendre, me prendre en main tout simplement. Ça commence par quoi ? C'est quoi ton, si tu te souviens, hein, c'est quoi ton premier geste ? Parce qu'on commence pas tout d'un coup. Généralement, il y a un geste qu'on fait. Moi, par exemple, c'était d'acheter des baskets et d'aller courir. C'était mon premier geste.
Moi, j'avais deux infirmières qui venaient me faire mes pansements à la maison, qui m'orientaient vers un endocrinologue pour commencer. Oui. Donc j'ai ensuite été sur proposition de l'endocrino en centre de cure pour réapprendre à manger. Et je devais y rester 21 jours et j'y suis restée 9 mois.
Ah oui.
Parce que entre-temps, c'est là où on a décelé mon lymphœdème. Et en fait, ils m'ont dit, on ne te lâche pas, on va te trouver un spécialiste. Donc moi, j'habite à Strasbourg. Le seul spécialiste que j'avais trouvé à l'époque, c'était à Mulhouse. Donc à Mulhouse, c'est... au sud de l'Alsace, c'est à 1h15 de Strasbourg, quoi. Parce que j'avais déjà vu un angiologue à Strasbourg qui m'avait juste donné des antibiotiques. Donc effectivement, ça avait arrêté les écoulements de lymphe. Je ne sais pas par quel miracle. Ça avait arrêté, mais dès que j'arrêtais les antibiotiques, ça reprenait, quoi. Donc c'était pas la solution. Donc la solution pour le lymphœdème, c'est la contention. Et ça, en fait, je l'ai su que quand j'ai rencontré ce spécialiste à Mulhouse. Donc je suis restée 9 mois là-bas. Je suis ensuite allée, j'ai fait des allers-retours aussi à Mulhouse pour faire des séances justement de bandages parce que je pouvais pas marcher avec les bandages, donc je faisais des 2 semaines d'hospitalisation à peu près. Mais dès qu'on enlève les bandes, c'est comme une gaine d'eau en fait. Si tu enlèves les bandes, ça revient en fait. Donc, a été pris la décision de me faire opérer, de diminuer un peu le volume de mes œdèmes et de me faire opérer derrière pour garder un peu ce bénéfice-là. En tout cas, il s'est avéré que le chirurgien n'a pas pu opérer plus qu'il n'espérait parce que finalement, il y avait beaucoup de vaisseaux en dessous, il pouvait pas prendre le risque. Donc là, la prochaine opération, il m'a dit, il faut que j'arrive en dessous des trois chiffres, quoi. Concrètement.
D'accord. Donc c'est ça un peu le challenge.
Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est l'opération de mes jambes. Après, ça, c'était il y a 6, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, le lymphœdème, c'est vraiment quelque chose dont on parle un peu plus. Le lymphœdème, le lipœdème. Et puis ça, je l'ignorais, cette chance d'habiter à proche de l'Allemagne, où eux sont très avancés sur le sujet. Il y a des cliniques de lymphœdème, carrément. Alors aujourd'hui, je ne me sens pas prête de partir 3 semaines. Je n'ai pas envie d'arrêter mon travail, d'arrêter mon quotidien dans lequel j'ai trouvé mon équilibre aujourd'hui. Je n'ai pas envie de quitter ma maison. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas aller dans ce type de centre. Juste fait le choix d'aller rencontrer un autre angiologue pour avoir un deuxième avis que je rencontre là au mois de novembre, qui m'a été recommandé par ma nouvelle kiné que j'ai rencontrée via Instagram et qui est spécialisée en lymphologie, donc par hasard. Elle m'a rencontrée sur Instagram. Et c'est très rare, en fait, les kinés qui font ça. En général, c'est une perte d'argent pour eux parce qu'ils sont obligés de rester sur la personne. Parce que moi, les bottes de pressothérapie, c'est pas du tout recommandé. Parce que les kinés, ils font souvent deux patients en même temps. Ils font un qui fait du sport et puis l'autre qui fait, ils l'aident à faire des mouvements. Moi, ils sont obligés de rester focus sur moi, en fait, pendant normalement une demi-heure. Donc moi, j'ai souvent eu ça en plus, des séances d'une demi-heure sur une jambe et puis la séance d'après sur l'autre jambe. Là, elle, la grande chance que j'ai, c'est qu'elle me fait donc 2 séances d'un coup, donc 1 heure, et elle me fait les 2 jambes. Et donc, elle m'a recommandé une spécialiste, angiologue à Strasbourg, que je vais aller voir parce que je ressens ce besoin d'aller au bout des choses parce qu'en fait, on m'a jamais fait d'examen en profondeur. Et je trouve ça bizarre. Donc, je me suis dit qu'au bout de tant d'années, j'aurais aimé avoir un deuxième avis médical. Je trouve que c'est important.
Et dans ce centre où tu es restée 9 mois,
oui.
Au-delà du lymphœdème, on t'apprenait aussi, on te faisait à manger, c'est eux qui faisaient à manger, c'était comme un centre pour perdre du poids, c'était quoi comme type de centre ?
Oui, c'est ça, il y avait des cours de piscine, il y avait de la marche, on allait faire de la marche parce que c'était dans un village alsacien, donc il y avait beaucoup d'espace vert, il y avait des cours de cuisine, j'ai appris beaucoup de choses là-bas, notamment. Ça restait quand même... comme si t'étais à l'hôpital, quoi. C'était une chambre médicalisée. En plus, c'était loin. À l'époque, j'avais personne qui avait le permis. J'avais quasiment pas de visite. Enfin, c'était... Voilà. Mais, en fait, même si, voilà, j'étais quasiment toute seule là-bas, ces 9 mois ont été très bénéfiques pour moi parce que j'en suis ressortie avec 60 kilos en moins.
Ah oui, en effet.
Donc, toi, quand t'es ressortie de là, c'était quoi ton état d'esprit ?
En fait, je suis sortie de là-bas... À la base, j'y étais rentrée pour faire le bypass parce que je me suis dit, avant de commencer tout ça, j'y arriverai jamais toute seule, je vais faire le bypass ou une sleeve, enfin ce que le médecin voudra bien me faire comme intervention. Et en fait, donc j'étais rentrée là-bas, c'est ironique, moi je trouve, on m'a dit, oui mais pour faire le bypass, il faut perdre du poids. Ah, d'accord. Là, vous avez un poids trop haut, on ne peut pas vous faire le bypass. Ok, mais moi je vais faire le bypass parce que j'arrive pas à perdre du poids. On fait comment ? C'est là où elle m'a dit, vous allez en cure, on va vous montrer un peu comment faire, parce que je partais vraiment de zéro et je pense qu'elle a eu la bonne initiative de m'envoyer là-bas. Et donc finalement, ils m'ont accompagnée sur toute cette durée-là parce que je devais perdre 60 kilos et je les ai perdus. Je les ai aussi perdus, je tiens à le souligner, pas que grâce à l'alimentation, mais aussi parce qu'ils avaient réussi à réduire mes œdèmes et j'ai énormément de poids dans mes jambes. Et le fait de réduire mes œdèmes, j'avais perdu, je crois, la première fois ils m'ont fait des contentions, j'ai perdu 10 kilos en une semaine, juste avec les contentions. Donc voilà, déjà, je suis repartie 60 kilos en moins. Et quand je suis sortie de là-bas, je me suis dit, j'ai plus envie de faire le bypass, j'y arrive toute seule. C'est bon, je vais continuer. On m'a donné des billes, je vais le faire toute seule. Et en fait, là, mon angiologue m'a dit, non, mais ça peut être bénéfique pour le lymphœdème, dans le sens où parfois, je reprenais en une semaine 5 kilos de lymphe dans les jambes. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait le bypass, j'ai plus trop... Moi, j'ai l'impression que ça se...
Ça mais est-ce que tu as fait le bypass?
Hein?
Tu as été opérée? Tu as fait un bypass?
Oui.
Ah, je savais pas, moi, que tu avais fait un bypass.
J'ai eu un bypass qui a complètement foiré, parce que j'ai quasiment rien perdu. Parce qu'en fait, juste après, j'ai fait ma fausse couche.
Ah oui.
Enfin, j'ai perdu,
le bypass, c'est quoi déjà?
J'ai quasiment rien perdu, j'ai perdu 40 kilos. Mais par rapport
c'est quoi
à
le bypass déjà? C'est quoi? C'est quand on coupe... J'ai jamais entre le bypass et la sleeve, c'est quoi le...
Alors, la sleeve, c'est... On te coupe juste un bout de l'intestin. Oui. Et le bypass, c'est on te coupe un bout de l'intestin et on te dérive l'intestin grêle pour la malabsorption. Et en fait, j'ai été opérée début juin des jambes et fin juin du bypass.
D'accord, en effet.
Voilà. Donc, finalement, je l'ai fait sur les conseils de mon angiologue. Et aujourd'hui, quand on me demande si je regrette de l'avoir fait, je réponds que je regrette pas grand-chose dans ma vie, mais ça, je pense que je le regrette parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de soucis parce que je dois prendre des vitamines à vie, parce qu'il y a plein d'aliments qui passent pas. Les pâtes, c'est un peu la loterie. Si j'en mange, il y a une chance sur deux que je revomisse, 8 ans après encore, hein. Donc voilà, je l'ai fait parce qu'on me l'a conseillé par rapport à mon lymphœdème et je pense que ça a été bénéfique par rapport à ces prises de poids intempestives. Mais pour moi, dans mon appréhension de l'alimentation, ça peut être un frein. Parce qu'en fait, oui. Après mon bypass, il n'y avait que l'avocat et le saumon qui passaient. Je mangeais que de l'avocat et du saumon.
Donc, ah oui, c'est compliqué après d'imaginer apprendre. Avoir une alimentation équilibrée et une assiette équilibrée, alors que de toute façon, c'est plus toi qui es maître de l'alimentation que tu vas ingérer.
Exactement.
C'est ton bypass, en fait, qui est le maître de... C'est des intestins qui se disent « Ah bah non, ça, j'aime pas », donc c'est plus compliqué, en effet. En fait, c'est à l'encontre un peu de ce qu'on t'avait appris dans le centre, où on devait t'apprendre des assiettes équilibrées, etc. Et quand tu veux le refaire chez toi, mais qu'en fait, t'as un bypass qui te dit « Bah non... » Toi, on n'aime pas le brocoli, c'est un peu plus compliqué, j'imagine.
Ouais, c'est totalement ça. Et donc, ça m'a un peu, ouais, ça m'a un peu ennuyée de me dire, en fait, j'étais de bonne volonté, j'aurais bien aimé continuer ce que j'avais appris, mais en fait, je peux pas parce que mon corps veut pas ingérer des aliments. Après, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, cette opération, on l'a fait un peu trop facilement aussi. Pour exemple, j'avais eu un problème à la cuisse, c'est pas un kyste, c'est une sorte de boule, je sais plus comment ça s'appelle, dans la cuisse, donc j'avais été aux urgences, et ils ont fait descendre un chirurgien bariatrique, je ne sais pas pourquoi je venais un problème à la cuisse, qui était prêt à me donner rendez-vous pour m'opérer. Il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, il ne connaissait pas mon dossier médical. Mmh. Et en fait, je lui ai dit clairement ce que je pensais. Je lui ai dit, non, en fait, vous ne me connaissez pas. Comment c'est possible que vous me proposiez même de m'opérer alors que vous ne connaissez même pas mon rapport à l'alimentation. Vous voyez juste mon état physique comme il est là. Mmh. Et je trouve qu'elle est un peu faite facilement parce que, très honnêtement, le suivi psychiatrique, on raconte un peu ce qu'on veut et puis ça passe. Hein.
Oui, j'imagine. Et quand tu as fait ça, du coup, une fois que tu as fait le bypass, il y a eu la fausse couche qui t'a créé d'autres émotions qu'il a fallu aussi probablement combler et un peu chouchouter par l'alimentation. Quand tu fais tes vlogs... Non, tu avais arrêté les vlogs et tu as repris, du coup, après la fausse couche.
Je faisais pas de vlog. Je parlais pas vraiment de ma vie de poids avant ma fausse couche. Donc, moi, j'ai commencé YouTube, je sais plus, en 2016, un truc comme ça, ou 2017, et puis j'ai fait ma fausse couche peu de temps après, hein. J'étais pas très régulière sur YouTube, hein. Je suis vraiment régulière depuis que je fais mes vlogs, parce que ça m'aide beaucoup, et j'ai eu cette fausse couche-là qui m'a mis un coup, qui me met toujours un coup, encore aujourd'hui, hein. Je pense que c'est normal, parce que la fausse couche, elle est tellement banalisée, Enfin, on vient de perdre un bébé, on entend des trucs, c'est hallucinant de la part des médecins, de la part des proches aussi. C'est très compliqué à vivre déjà de base. Alors si en plus on se mange les remarques autour, ça enfonce la tête sous l'eau, c'est un régal. Et donc, j'ai repris un peu de temps après mes vidéos en me disant... Ben, j'ai pris, moi, voilà, j'ai pris un prétexte. Je sais pas si Karine apprécierait. J'ai pris le prétexte du 1er janvier en me disant, on est le 1er janvier. Vas-y, c'est maintenant ou jamais. Tu commences à aller mieux. Tu te dis qu'en partageant ça sur les réseaux, ça peut t'aider. Et puis si jamais ça te saoule, t'arrêtes, tu supprimes tout. Et puis, ciao les gars. On se reverra peut-être un jour, je ne sais pas. Et puis finalement, ça m'aide énormément, ça m'aide à tenir le cap, ça m'a aidé à faire de belles rencontres. J'ai rencontré ma diététicienne grâce à Instagram, j'ai rencontré ma kiné grâce à Instagram. Ouais, franchement, il y a des mauvais côtés parce qu'il y a toujours des gens qui viennent te donner leurs conseils, pourquoi tu fais pas le régime hydrique, des trucs comme ça.
Moi, je le vois souvent sous tes commentaires, mais faudrait pas que t'achètes ça. Et en plus, c'est ça souvent que je vois quand tu fais tes retours de course.
Que je fais plus.
Quand tu fais des. Tu fais plus ? T'en fais plus ?
Non.
Non, ça saoulait pour des commentaires ou pas ?
Bah, ça saoulait dans les commentaires, sauf quand je faisais un petit disclaimer au début, là, ça allait.
Oui.
Mais en fait, je montrais mes courses totales, donc celles de mon conjoint. Et tu prends ton conjoint comme prétexte, c'est toi qui bois l'Orangina, alors que je bois pas de gazeux dans ma vie. Mais les gens ne me connaissent pas, mais pensent me connaître parce que je fais des vidéos. Mais dans ma vie, je bois pas du tout de gazeux à cause du bypass. Donc, à un moment donné, j'en ai moins fait parce que par rapport à ça, et puis parce que je trouvais ça un peu redondant, et parce que j'ai adapté ma façon de faire mes courses aussi. Donc, je ne les fais plus en une fois. J'essaye d'aller à la boucherie, j'essaye d'aller dans différents endroits et je ne pense pas tout le temps à filmer.
D'accord, oui, bien sûr. Et toi, là, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce chemin vers une alimentation plus saine, parce que finalement, toi, ce n'est pas que l'alimentation, que ton cheval de bataille, c'est aussi parce que tu partages aussi beaucoup tes séances d'aqua...
Aquatou, je fais tous les cours d'aqua.
Aquatou.
Sauf le bike, parce que le vélo n'est pas adapté.
Voilà. C'est quoi, toi, aujourd'hui alors, la première question, c'est quelle est la difficulté que tu rencontres le plus aujourd'hui dans ce cheminement et quelle a été pour toi la plus grosse découverte qui t'a vraiment... Tu t'es dit, ah ouais, là, franchement, je
savais pas... Le coup.
Ça vaut le coup quand même d'être dans ce cheminement.
Dans le cheminement du sport, tu veux dire ?
Non, de tout, dans l'hygiène de vie, alimentation, sport.
Ça vaut le coup parce que je galère pour beaucoup moins de choses. Je peux avoir une vie un peu plus classique tout le temps. Je peux dormir allongée, je peux aller au travail à pied, enfin prendre les transports en commun. Je peux refaire du vélo. Que je pouvais... Alors difficilement parce que j'ai un lymphœdème, j'ai des œdèmes à l'intérieur des jambes, donc je peux faire du vélo et encore j'ai un manque d'équilibre, donc j'ai arrêté parce que j'ai fait une chute et du coup ça m'a un peu refroidi, mais je peux faire du vélo, enfin je peux faire des choses. J'ai concrètement plus du tout, je suis plus la même Hélène d'il y a 3 ans concrètement. J'ai complètement changé d'état d'esprit, parce que c'est vrai qu'avant j'étais un peu matrixée aussi par les réseaux, et je l'ai été là récemment, je m'étais un peu perdue aussi l'année dernière en voyant plein de trucs sur Instagram et en écoutant des discours et me dire ah ouais peut-être, et en fait non, et ma diététicienne me disait mais ça te correspond à toi, et en me faisant réfléchir je lui disais bah non, elle me dit bah pourquoi tu veux le faire.
Non, c'est vrai, ça c'est très important, et ça c'est vrai que Karine elle disait tout le temps ça. Il y a plein de choses qui sont véhiculées, et pas que sur les réseaux, depuis la nuit des temps. Hein. Avant il y avait des magazines féminins qui véhiculaient aussi eux-mêmes leur propre part d'informations. Il y a tellement d'informations partout sur l'alimentation, sur le sport, partout, que si on revient pas à soi à chaque fois, on part vite à tout tester, à faire exactement. Elle mange ça le matin. Mais est-ce que moi j'ai envie de manger le matin ? Est-ce que moi j'ai faim le matin ? Est-ce que moi... Et en fait on s'écoute plus, on oublie qu'on est une personne à part entière et qu'on rentre dans les mêmes codes que ce que l'on voit partout. Et mais est-ce qu'ils représentent moi qui je suis ? Est-ce que ça rentre dans mes valeurs ? Est-ce que ça rentre dans mon quotidien, dans ma routine ? Est-ce que j'ai des enfants ? Est-ce que j'ai un passé? Est-ce que j'ai un passé? Par exemple, il y a des personnes qui ont des problèmes alimentaires parce qu'ils ont connu des violences dans leur jeunesse et que bah, c'est compliqué de... On n'a pas tous les mêmes vies. Et c'est vrai que c'est important que ta diététicienne te dise, mais est-ce que toi, ça te correspond? Est-ce que toi, en tant que Hélène, plutôt que toi, en tant que Hélène qui a vu telle personne sur Instagram montrer, sachant qu'en plus, notamment, faut pas oublier qu'Instagram, c'est quand même le milieu du fake.
Donc,
non mais une personne qui te montre ce qu'elle a mangé le midi, l'a-t-elle mangé? Ça, tu peux pas le dire. Moi, je prends tout avec sur Instagram et les réseaux. Je prends tout avec. J'essaye parce que moi, pareil, hein, je suis comme toi. Parfois, il y a des moments où je rentre dedans et je me dis.
On se perd tous
dans ce truc. Mais il y a des moments où je me dis. Et Isidora me dit souvent, Marina, oublie pas. C'est du fake. Tu sais, Instagram, les gens qui sont vraiment honnêtes et sincères, il n'existe pas. Il y en a énormément, ça c'est clair et net, mais il y en a aussi, c'est pas forcément ceux qui sont mis le plus en valeur sur Instagram, donc rappelons-nous que, est-ce que c'est ce qu'elle a vraiment mangé? Parce que je me souviens qu'une grosse, youtubeuse, mais je vais pas dire ici les noms, mais une grosse youtubeuse, une des plus grandes youtubeuses beauté de France, hein, qu'elle avait sa chaîne cuisine, qu'elle nous faisait croire qu'elle mangeait ça, pour qu'après elle disait qu'en fait elle allait
se faisait vomir
à chaque fois, donc... Ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui est édulcoré, mais c'est pas la réalité des gens. J'aimerais bien savoir ce que les gens ce qu'ils font quand ils ont la porte fermée.
Ou comme toutes ces personnes qui étaient végétaliennes,
oui.
Sur YouTube, parce que c'était tout un truc où tout le monde voulait être végétalien, donc ils écrivaient leurs vidéos, c'était pendant des années vegan, végétalien, etc. Tout ça pour nous dire que, en fait, ça fait un an, mais j'osais pas vous le dire, mais ça fait un an que je remange de la viande parce que pour telle ou telle raison.
Mais ça, ils le disent pas.
Ils le disent pas. Donc,
et ils le disent qu'au moment où il n'y a plus le choix, en fait. Au bout d'un moment, c'est juste, faut le dire. Donc, c'est vrai que c'est important de se rappeler à chaque fois qu'il faut revenir à soi et parfois aussi occulter ce que les gens font. Et c'est vrai qu'en plus, sur les réseaux et sur les partout en général, t'as les informations qui sont tellement contradictoires. T'as celles qui vont te dire, est-ce que le jus de citron, c'est bon le matin? Ouais, c'est top. Non, pas de jus de citron le matin. Tu sais, t'es là, je fais ou je fais pas? En fait, je pense qu'il faut faire ce qui est bon. Est-ce que toi... Par exemple, nous, notre mère, elle ne mange pas le matin parce qu'elle elle a pas faim le matin. Ça ne lui convient pas. Ok, moi, je ne conçois pas de ne pas manger le matin parce que moi, je commence par ça le matin. Mais si tu t'écoutes, c'est bon. Il y a des choses... Voilà, moi, le jus de citron le matin, je ne vois pas l'intérêt. Par exemple, je vais dire, je ne vais pas en boire, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai tenté à l'époque. Oulala, j'avais tout fait, hein, pareil.
On a tout tenté.
Mais c'est revenir à soi, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que tu trouves ça... Est-ce que ça fait partie justement des difficultés que tu rencontres dans ton cheminement? C'est justement cet appel, les sirènes des réseaux sociaux qui parfois te perturbent et te font dériver un petit peu? Ou est-ce qu'il y a autre chose que tu trouves difficile dans ce cheminement?
Ce qui a été difficile, ça a été de trouver mon sport surtout. Parce que on est là sur les sports à la mode, les programmes, les machins. Et moi, j'ai trouvé le sport le plus ringard. Quand je le dis, on me dit c'est quoi? C'est Club Med? C'est avec des mamies? Mais je vous invite à venir faire un cours d'aquacombat avec moi. Vous allez mourir. Et moi, voilà, j'ai trouvé mon sport. Et je pense que déjà, c'est... Alors, au-delà de... Ça aide peut-être à perdre du poids. Ça aide psychologiquement énormément. Moi, de faire du sport aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose... que je souhaite pas arrêter parce que au-delà de l'aspect santé, l'aspect mental est énorme par rapport à mon sport, quoi. Vraiment, moi, voilà, j'ai trouvé l'aqua, j'adore ça, je fais tous les cours d'aqua et même si c'est pas à la mode, j'adore ça et je continuerai, quoi. Un peu moins en hiver, j'avoue, mais j'y continue, mais en hiver, je me fais un peu plus violence pour y aller.
C'est hyper intéressant, vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'encore une fois, tu as tout à fait raison. Pour ceux et celles qui ne sont jamais sur les réseaux, ils comprennent pas ça, mais pour ceux et celles qui sont sur les réseaux et qui ne voient que le sport comme étant avec un objectif précis, c'est-à-dire perdre du poids ou etc., on oublie que la base d'activité physique, c'est aussi pour notre santé physique et notre santé mentale. Et donc, en effet, on peut très vite... tomber dans le sport, c'est qu'à la salle. Je ne fais que des squats, je fais que du fitness. Mais quand on se revient parfois à la vraie vie et qu'on demande à ses voisins, aux gens qui nous entourent, qu'est-ce que vous faites comme sport? Moi, j'ai jamais entendu, alors vraiment jamais encore, des gens qui sont proches de ma vraie vie, hein, vraiment dans ma vraie vie, me dire, oui, parce que moi, je fais des squats dans mon salon. Moi, ce que j'entends, c'est mon voisin qui fait, par exemple, tous les week-ends, qui fait des randonnées dans notre région. Ce que j'entends, c'est ceux qui font du tennis dans mon village. Qui font du basket une fois par semaine. En plus, nous, c'est une fois par semaine, ça dure genre 2h30, un truc comme ça. Et c'est leur moment de rencontre entre potes, quoi. Et moi, je me souviens quand j'avais fait aussi, quand je suis tombée enceinte, J'avais, alors le sport, je me dégoûtais quand je suis tombée enceinte, et j'avais fait de l'aquagym. J'avais fait de l'aquacombat. Moi, je faisais de l'aquacombat et un autre truc, je ne sais plus ce que c'était, que j'avais adoré. Et pareil, quand j'avais dit sur les réseaux que je faisais de l'aquagym,
t'es retraitée ?
Mais t'es une mamie ? Ou sinon, c'est typique de la femme enceinte. Mais en vrai, c'était le seul sport qui me...
Être dans l'eau, quoi.
Qui me donnait envie. C'est le seul sport. Bizarrement, du moment où j'arrivais à la fin de ma grossesse, je n'ai plus jamais voulu mettre les pieds. Mais ça, c'était vraiment... Mais je me suis écoutée. J'avais envie de ça, j'ai fait ça, et j'ai arrêté quand j'ai plus envie. Et merci de le dire. On choisit le sport qu'on aime et pas le sport qu'on pense va nous transformer. Puis de toute façon, si tu l'aimes pas, tu ne le feras plus après.
Ah oui,
ça a dégoûté.
C'est sûr que si tu vas t'inscrire à la salle de sport pour faire des machines alors que tu détestes, moi je parle pour moi, hein, parce que vraiment les machines c'est pas du tout mon truc. Si je vais m'inscrire à la salle de sport pour faire des machines parce que mince, je dois perdre du poids, mais comme je déteste aller faire des machines, j'irai jamais. Donc il n'y a pas d'intérêt. Moi, c'est vrai que j'adore la danse. Et moi aussi, quand je faisais la kizomba, c'est sûr que la kizomba, c'est pas non plus quelque chose de... C'est tendance dans un certain domaine, dans un certain milieu, c'est très tendance. Mais globalement, pour tout ce qui est lifestyle, ou, etc., globalement, tu parles de kizomba, personne ne sait ce que c'est. Voilà, si j'en parle. Personne ne voit ce que c'est. Tout le monde va dire, oh, c'est un truc sulfureux où tu touches les hommes, etc. Mais non, mais c'est vrai. Mais alors que pourtant, moi, c'était tellement une passion d'aller faire de la salsa, de la bachata ou de la kizomba, que je me posais même pas la question, je vais faire du sport. Je me posais pas cette question, je me disais juste, je kiffe, je vais aller m'éclater, en fait, je vais aller m'amuser.
Bah, c'est ce qu'on se disait ce matin, quand hier on a fait notre séance de step à la salle, parce que nous, quand on va à la salle, c'est uniquement pour les cours collectifs, pour le... Oui. Pour, ouais, que... Comment on dit ça déjà ?
L'émulation.
L'émulation ouais. du groupe. Et quand on va à la salle pour faire le step, mais on s'éclate, c'est-à-dire que on rigole.
Oui.
Tu te trompes. Ça te fait aussi... c'est super pour la mémoire, pour la coordination, on rigole, le prof il est à fond, il te motive. À aucun moment je me dis quand je fais mon step, donc là je fais ça pour avoir de belles fesses, ça je fais ça pour avoir des muscles, ah non mais là je vais avoir un ventre avec des abdos, non je me dis pas ça, je me dis putain mais je me suis dépensée, j'ai transpiré, mais alors j'ai transpiré de fou, je me suis éclatée et quand je reviens, bah, je me sens tout de suite hyper heureuse, je me sens heureuse, je me sens...
Bien.
Ouais, c'est... T'as dit quoi ?
Bien, tu te sens bien.
Bien, ouais.
Toi, quand t'as découvert l'aqua tout ?
T'as fait plusieurs... Est-ce que t'as testé plusieurs trucs ? Est-ce que t'as déjà fait des programmes avant de te dire « j'ai enfin trouvé le sport qui me correspond ?»
Bah, j'avais été inscrite dans une salle de sport classique. Après, c'est vrai que des salles comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Ça peut être, enfin, il y a des cours d'aqua dans les cours municipales, mais personnellement, moi, j'irai pas dans les piscines municipales. Mais c'est vrai que là, c'est dans un cadre de salle de sport. Comme tu disais, le collectif, pour moi, c'est important. Je fais pas de sport toute seule parce que j'ai besoin de cette énergie-là du collectif. Donc c'est vrai que, bah, du coup, grâce aussi à mes coachs, ça m'a menée un peu vers le terrestre, mais j'éprouve un peu moins de plaisir à y aller parce que voilà, je porte mon poids, hein, que je ne porte pas dans l'eau. Et non, vraiment, ce sport-là, je le recommande à tout le monde, particulièrement aux personnes qui ont beaucoup de poids, parce que bah, vous pouvez tout faire dans l'eau. Vous êtes comme tout le monde.
Ouais, je vois beaucoup sur les réseaux les femmes que tu partages beaucoup, leur retour sur ton compte Instagram, ces femmes qui ont osé. Grâce à tes vlogs, d'aller à la piscine, parce que toi, déjà, t'as trouvé ton sport, ce qui est génial, mais c'est pas évident, parce que t'as trouvé un sport où on se met quand même on se met à nu, en fait, et même pour des femmes qui n'ont pas de poids à perdre, parfois, le passage au bikini est difficile, même l'été à la plage, hein. Donc t'as pas choisi le sport le plus facile, encore plus quand on a du poids à perdre.
Ouais, non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages en ce sens et ça me fait mal au cœur, tu vois, de savoir que ils font pas ça à cause d'un maillot de bain, à cause de la société.
Bah non, mais ça fait mal au cœur parce qu'elle se prive d'un moment de joie, mais parce que la société nous impose quand même une image assez... assez fine, assez édulcorée, assez lisse de nos corps de femmes. Hein. En plus, c'est souvent le corps de la
c'est
femme. Hein.
C'est alors que franchement, mais toute personne qui a du poids ou pas, enfin, il n'y a pas meilleur endroit pour se sentir comme les autres, se sentir bien. On n'a pas, justement, voilà, on peut tout faire. Je peux tout faire dans l'eau. Donc, vraiment, si y a des gens qui ne veulent pas aller à la piscine et qui écoutent ce podcast, qui ne veulent pas se mettre au maillot de bain, allez-y, vous vous en fichez. Vous y allez une fois. La première fois, ce sera compliqué. Voilà, à force, vous allez connaître même les gens. Et puis, souvent, on se dit, on a un peu peur des salles de sport. On va se faire juger. Mais c'est que de l'entraide dans ma salle de sport. Quand j'ai été faire une fois du body pump, bon, je suis partie avec un mal de dos parce que je me suis mal prise, mais en fait, ils voyaient que c'était ma première fois, on m'a aidée, on m'a dit, tiens, il faut que tu prennes ça, il faut que ça, c'est pour ça, il faut que tu l'accroches comme ça. Il y a beaucoup d'entraide. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'empêchent de faire des choses, qui se mettent des barrières tout seul. Et en fait, c'est des barrières qui n'existent finalement que pour elles, peut-être. Alors oui, bien sûr, il y a des cons partout, on va en croiser des cons. Mais c'est peut-être aussi pour ça que je me suis forgé ce caractère, parce que moi, maintenant, j'en vois chier les gens, concrètement. Quand il y a quelqu'un qui me regarde avec insistance, je ne me gêne pas pour leur dire. Pour que la prochaine fois, il ne le refasse pas sur quelqu'un d'autre.
Il t'a fallu du temps pour trouver ce sport ? Est-ce que tu en as essayé plusieurs ?
J'ai fait la salle de sport, une autre salle de sport, où, voilà, les machines. Il y avait des cours collectifs, mais non, en fait, j'avais encore plus de poids en plus à ce moment-là. C'était compliqué pour moi de suivre. Ce n'était pas un plaisir, en fait. Que là, on a des coachs en or. La gestion de la salle un peu moins, mais les coachs sont vraiment motivants, ils nous aident à nous dépasser. Là se pose la question, je vais déménager à 45 minutes de la salle, là je suis à 5 minutes, c'est un avantage aussi. Se pose la question, est-ce que je change ou pas ? Parce que sinon ce sera à la piscine municipale, là. Je suis un peu moins chaude parce que les coachs y font pour beaucoup aussi, et pas que les coachs d'internet, les coachs de la vraie vie aussi sont.
Les coachs de la vraie vie, c'est clair, c'est lui qui fait aussi. Nous, on a un coach génial pour le step, mais vraiment, franchement, je dis toujours un petit jeune, ça me fait me passer plutôt pour une vieille.
Parce que j'ai l'impression qu'il a l'âge de mon neveu, il doit avoir 24 ans.
Il doit avoir 23-24 ans. Ouais. Tous, il y a sa date de naissance qui est écrite sur le. De tous les coachs, il faudrait que je regarde un jour. Il doit avoir 23-24 ans, il a une énergie. Incroyable, et limite t'y vas en sachant que de toute façon lui va te donner l'énergie que parfois tu n'as pas, parce que le sport à 19h parfois moi l'énergie elle est loin, mais il me redonne cette énergie là et c'est vrai que c'est pas ce que j'ai avec moi. J'en ai fait beaucoup de sport chez moi toute seule, j'en ai fait énormément, mais j'ai pas la même énergie qu'avec les autres. Et en effet, les gens qui nous aident. Tu vois, hier, il y avait un pas au step. J'ai beau le faire, j'arrivais pas. Et la fille derrière moi, qui voyait que je faisais pas le pas du bon sens, m'a juste dit, attends, hop, elle m'a montré. En 2 secondes, j'avais compris.
Non, parce que le sport, au-delà de juste l'activité physique, ce qui est bon pour le moral, c'est bon pour la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé physique, mais c'est aussi bon pour tout simplement la sociabilité. Mmh. Et c'est vrai que quand on est quand on se sent pas à sa place dans le monde parce qu'on ne rentre pas dans des cases, souvent on s'isole. Et c'est vrai que trouver un sport qui te permet d'aller rencontrer des gens, moi je sais qu'à l'époque où j'avais découvert la kizomba, j'avais pas de poids à perdre ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont du poids à perdre dans la vie, mais moi j'étais quelqu'un qui venait d'arriver à Angers, je connaissais personne à Paris. Isadora, elle avait déjà sa vie bien entamée avec son mec, etc. Donc moi, j'étais pas toujours là en train de tenir la chandelle.
Merci beaucoup pour ça.
Donc moi, j'étais toute seule ici et je me suis isolée, parce que comment tu trouves... J'ai un métier qui est sur les réseaux sociaux, donc virtuel. Comment j'en compte des gens, en fait ? Et donc, je me suis fait violence, mais il faut imaginer que moi, too much information. Mais moi, toute la journée, je me suis vidée aux toilettes tellement j'avais peur d'aller toute seule à ce premier cours, hein. Donc, bien sûr que toi, tu t'es mise à nu, mais il y a aussi... Moi, je me suis mise à nu juste d'aller voir des gens, d'aller danser avec un homme qui allait me toucher, etc. Moi, je suis hyper pudique, c'était quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. J'étais vraiment... Et toute la journée, je me suis dit, t'iras pas. J'y suis allée, ça a évidemment changé tout pour moi, puisque j'ai rencontré Samuel, j'ai eu un bébé, bref. Mais ça m'a sociabilisée, j'ai rencontré des gens aujourd'hui. Ma Bessou, si tu écoutes cet épisode, c'est mon amie, quoi, je veux dire... Au-delà du sport, juste pour changer de corps, t'as aussi tout un changement de vie, de rencontres sociales. Et ça, c'est important, et c'est pas trop véhiculé, je trouve. C'est pas assez véhiculé non plus aujourd'hui, l'aspect social du sport. Ça, c'est dommage. que toi, tu parles de tes coachs que tu aimes beaucoup, t'en parles beaucoup aussi sur Instagram de tes coachs et tout, c'est que t'as vraiment quelque chose pour eux, tu vois, tu les apprécies vraiment.
Et des humains, des êtres
et des humains,
humains
que tu vois, quoi.
C'est ça, c'est comme on dit à chaque fois, oui, mais tu voudrais pas faire tel programme. J'ai dit non, mais en fait, j'ai des coachs dans la vraie vie, donc pourquoi j'irais aller chercher ailleurs? J'ai ce qu'il me faut à 5 minutes de chez moi. Et ils sont très très bien, voire peut-être même mieux. Et ils sont diplômés, eux. Pas tout sur Internet.
Non. Faites attention, faites attention. Hein,
j'adore les punchlines à chaque fois d'Hélène. Les punchlines qu'on a. On lance une petite bombe. Et ils sont diplômés, eux.
Et moi, je voulais revenir sur. T'as fait un réel ou un Reels? Moi, je dis un Reels, mais bon, je sais pas ce que toi, tu dis quoi, toi?
Ouais, je dis un réel, je crois.
Un réel, d'accord.
Je suis bonne en anglais, mais...
Donc moi, j'ai adoré parce que tu as fait un réel. Je trouve qu'il aurait dû avoir beaucoup plus de vues parce que moi, j'ai adoré ce réel. Où tu parlais justement de quand tu apprends à manger en pleine conscience.
Ah oui.
Et ton réel, il est juste exceptionnel parce que c'est l'histoire de notre vie. Hein, nous, on mange très vite. Où Hélène, en fait, elle se filme en train de manger très vite parce qu'elle se met à table, elle mange très vite et d'un coup, ah! Je me rappelle que certainement ma diététicienne m'a fait comprendre qu'il fallait que je mange en pleine conscience. Donc tu ralentis, tu commences à regarder tes aliments, etc. Tu commences à sentir tes aliments, tu commences à manger de façon plus consciente. J'ai trouvé ça hyper intéressant ce Reels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses comme ça avec lesquelles tu galères dans ton alimentation santé, notamment le manger en pleine conscience, mais je t'avoue que moi aussi je galère toujours. Ton réel me parle énormément, c'est ma vie. Je mange toujours beaucoup, beaucoup trop vite. Est-ce qu'il y a des choses où tu as l'impression que tu stagnes dans ce cheminement ou pas?
Oui, justement, manger plus doucement, c'est vraiment la question qui revient tout le temps et qui, je le remarque avec Antoine, en fait, j'ai déjà fini, lui, il n'a même pas commencé parfois.
L'histoire de ma vie avec Mathieu.
En fait, moi, quand c'est prêt, je m'attable, je mange. Lui, il fait des trucs et souvent, je ne l'attends même pas, en fait. Il faut que je mange. J'ai faim, il faut que je mange. Donc il y a ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore je bois beaucoup pendant les repas, je pense que c'est pas bon, mais c'est limite une bouchée, un coup d'eau. Et du coup je remplis mon corps d'eau aussi, donc ça c'est pas... Alors c'est bien de s'hydrater, mais il faudrait que je boive moins pendant les repas, je pense, mais ça c'est quelque chose que j'arrive pas. Après voilà, ça relève plus du trouble du comportement alimentaire, je suis très addict au pain. On essaye de soit d'en acheter du pain que j'aime pas trop, comme ça lui il en a et tout le monde est content, parce que moi j'aime pas genre le pain trop cuit, j'aime pas ça, on essaye de trouver des alternatives comme ça. Mais après oui, ça relève plus du trouble du comportement alimentaire. Alors je fais plus de crises d'hyperphagie comme je faisais avant depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais j'ai encore beaucoup de mauvais réflexes, voilà. Il y avait aussi, ce qui a changé aussi, c'est que je mangeais jamais à table avant. Maintenant, c'est à table ou on mange pas.
Tu mangeais où avant?
Sur le canapé.
D'accord.
Mais en fait, même pas sur la table basse, ça veut dire que j'étais au fond du canapé, quoi, tu vois. c'est vrai que c'est plein d'habitudes à prendre... qui mettent du temps à mettre en place. Pour moi, ça met du temps. Pour d'autres, ça peut peut-être aller plus vite. Ça dépend de chaque
personne. Et quand tu fais tes courses, par exemple, tu as des choses qui sont difficiles pour toi par rapport aux courses, par rapport aux achats que tu fais, par rapport aux choix? Est-ce que ça te pose question de te dire « Ah tiens, est-ce que ça, c'est un bon aliment ?» Ou est-ce que non ?
Par rapport à avant, justement, en fait. Et puis quand j'ai un doute, maintenant, j'envoie la photo à ma diététicienne. Parce qu'il y a des trucs où je suis pas sûre et elle me dit si vas-y tu peux. C'est vrai que voilà, pendant un moment j'avais dit que je m'étais perdue sur les réseaux avec justement le 100% fait maison. J'ai deux travails moi et c'est vrai que je peux pas. Alors déjà la cuisine, c'est, il y en a ça les détend de le faire et tout. Moi ça peut vite devenir compliqué déjà de rester debout. Juste ça. Donc j'ai trouvé l'alternative de faire à manger. Quand j'épluche mes trucs, je m'assois. C'est vrai que du coup je m'interdisais carrément d'acheter des trucs préparés, en fait, alors qu'il y a des trucs préparés qui aujourd'hui face au changement de mœurs, hein, l'industrie alimentaire a quand même évolué sur certaines compositions de repas. Je mange des purées, j'achète des purées en fait toutes faites qui me dépanne bien, bah, quand j'ai pas le temps, bah, je préfère manger ces purées-là toutes faites ou la liste d'ingrédients est, enfin, c'est exactement ce que j'aurais mis. Bon, il y a peut-être un truc en plus, c'est normal, c'est un truc industriel, mais je préfère manger ça plutôt que me dire, bah, je vais me prendre un McDo, quoi. J'ai pas le temps, je vais me prendre un McDo. Et en fait, c'est vrai que pendant un moment, je culpabilisais de pas faire tout 100% maison. Et puis, j'étais partie dans un délire à plus acheter de trucs tout faits. Et puis finalement, bah, quand j'avais pas le temps, bah, je commandais un truc à manger, quoi. Et je commandais pas une salade.
Oui, ah non, ça... il n'y a pas encore de salade. En plus, t'as pas de fast-food de salade, hein. Pour l'instant, je n'en ai pas vu encore en livraison à domicile. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on parle de manger sainement, forcément, l'alimentation saine, c'est une alimentation maison, ça, il n'y a pas de doute. Mais comme on le dit souvent, l'alimentation maison, oui, bien sûr, mais aussi, aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous aident. Il y a des choses qui ont été créées aussi. Les choses n'ont pas été créées par les industriels que pour nous empoisonner. Il y a aussi des choses qui ont été créées pour nous aider. Donc, c'est vrai que moi, quand j'ai toujours à la maison des légumes surgelés, ça, c'est une obligation. J'entends parfois des gens qui vont dire « Ouais, mais tu penses que les légumes surgelés, c'est... » Bah oui, les légumes surgelés, c'est des légumes surgelés. Moi, si j'ai pas de légumes surgelés, je vais pas m'amuser toutes les semaines à laver mes poireaux, les émincer. Attends, c'est un travail temps plein, sinon, au bout d'un moment...
Parce que quelque part, nous aussi, on a deux boulots.
Bah oui,
j'ai une entreprise, en plus, on est maman.
Bah voilà, c'est un sacré métier. Et donc, si toute la journée, je vais passer mon temps à éplucher, émincer, faire bouillir, faire truc, non, moi, j'achète mes yaourts, j'achète mes trucs.
Oui, parce que ça aussi, on nous le dit. Parce qu'on, à contrario, nous, c'est... On va nous dire, comme on cuisine maison, bah on fait pas assez. Bah, pourquoi vous achetez les yaourts? Vous savez, vous pouvez les faire maison, les filles.
Le lait végétal, vous pouvez le faire vous-même. Votre boisson végétale, vous pouvez la faire vous-même. Tout, oui, mais tout est faisable soi-même. Jusqu'au bout d'un moment, on vit tous aussi des vies actives. On a beaucoup, on est très nombreuses à être soit des mamans, soit des employés, des trucs. Bref, on a tous beaucoup de vies. Et il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui ont été créées pour nous faciliter la vie.
Mais comme tu dis, c'est chouette de faire le choix aussi de
lire la liste des ingrédients
et de se dire, ok, moi j'achète du tout fait, pas de souci. Moi je le fais aussi, hein, d'acheter des trucs, par exemple des sauces tomates parfois où j'ai la flemme. Je me dis, flemme de faire ma sauce tomate maison avec mes petites tomates de mon potager, et flemme. Bah du coup, oui, je vais faire le bon choix par contre de produits, parce que j'aime me dire que je n'ingère pas énormément de produits dont je ne connais même pas le nom sur l'emballage, mais en soi, on achète tous du transformé. Ça aussi, on nous dit « Ah, oh, mais ça, vous savez que c'est transformé. » Mais vous savez, tout est transformé. Je veux dire, mais il faut qu'on avoine le son. Enfin, ils ne sont pas arrivés dans mon...
du champ au paquet de trucs comme ça.
C'est pas venu mon jardin, en tout cas.
Ouais,
donc, en soi, tout est transformé. Tout ce qu'on achète est transformé. À part, en effet, quand tu vas chez le maraîcher... bon bah là il a cueilli hier, il te donne sa carotte, mais l'épicerie en règle générale est transformée. Donc je peux comprendre la culpabilité que ça peut occasionner. Je peux comprendre que parfois même nous, quand on, du coup ça me fait me dire des façons dont on s'exprime nous aussi parfois peuvent donner l'impression que si tu te fais pas de cuisine maison, t'es un peu une nullos. Alors que non, c'est pas ce qu'on veut.
Non, c'est que la cuisine maison, c'est la base d'une alimentation saine, ça, on pourra pas, c'est comme ça. En revanche, il y a des aides aujourd'hui. Moi, c'est avoir une sauce tomate napolitaine avec une super composition. Bah, moi, le soir, quand j'ai la flemme de cuisiner, je fous ça dans les pattes de ma fille. Je me dis, bon, bah, bon appétit, chérie. Hein. Enfin, j'ai pas. Oui, non, mais on a tous ces mêmes vies. Moi, à l'époque, ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai plus beaucoup, mais c'est Karine qui avait cette truc à l'époque d'acheter les pizzas margarita. Toute simple, juste la margarita.
Karine a toujours dans son congélateur.
Dans son congélateur pour les soirs de flemme. Elle rajoute dessus du poivron, enfin, ce qu'il y a de saison, hein, du poivron, elle va prendre un peu de jambon, nanana, elle met au four, elle fait, voilà, ce soir avec une salade verte, c'est bon. Il y a des choses qui, enfin, même les diététiciennes hein, mangent aussi des choses transformées, enfin, dire tout le monde, même Claudie, notre amie naturopathe, tu vas chez elle, il y a des trucs transformés, on se facilite la vie. Après, c'est juste qu'on n'a pas une alimentation transformée du lundi matin 8h à dimanche soir à 23h. Mais dans la semaine, il y a forcément un moment donné où j'ouvre une boîte de quelque chose et je me dis, allez, Bon appétit.
Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, je me suis mise la pression avec ce truc-là pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que je me rende compte que, bah, en fait, non. C'est pas nécessaire. C'est encore pire, même. C'était devenu pire. Et bon, ça va, ça n'a pas duré non plus un an, mais...
Parce que t'es revenue à toi.
Parfois, les réseaux, ça a des mauvais côtés aussi.
Ouais. Mais c'est bien parce que t'es revenue encore une fois à toi. Je veux faire qu'une maison, mais en fait, ça me... Oh, ça ne me correspond pas tout le temps, j'ai pas envie. Et en plus de ça, en effet, bon, tu dis que tu t'assois parce que t'as un infodème, sache que mon conjoint s'assoit toujours quand il fait à manger. Et à chaque fois que je le regarde, je fais, bah, tu t'assois pour préparer genre des légumes. Oui, oui, moi j'aime bien être assis pour cuisiner. Ok, reste assis alors. Donc tu vois, il n'y a pas de lymphodème et pourtant il reste assis. Hein, donc,
bon, après, tu vois, j'ai un micro-bout de cuisine que j'aime pas trop. J'aime pas rester dans cet endroit-là. Je pense qu'aussi, quand on va déménager, qu'on aura notre nouvelle cuisine, une cuisine que j'ai choisie. Hein, là, pour le coup, Antoine, il m'a dit, bah, choisis, vas-y, ton rêve, choisis tout. Il a... Et du coup, je pense que je vais aussi changer radicalement, je pense, à ce moment-là, quand j'aurai une cuisine fonctionnelle avec... Voilà. Là, si je veux prendre un truc, il faut que je me baisse, que je sorte tout pour récupérer un truc au fond. Enfin, c'est assez compliqué, mon four. J'ai un four un peu d'étudiant, donc genre les légumes grillés, ça marche pas. Enfin, non, les légumes rôtis, ça marche pas. Donc voilà, après, j'arrive quand même à faire des petites choses. Je me suis quand même bien améliorée depuis le début. Et puis, je me laisse le temps, en fait. Je me laisse le temps que parfois les gens sur les réseaux ne veulent pas me laisser, mais moi je leur dis, en fait, c'est ma vie. Je suis pas là pour vous dire que ce que je fais c'est bien, comme au même titre que je dis pas le grammage que ma diététicienne m'a donné sur mon programme, parce qu'au début elle m'avait laissé libre, elle m'avait pas donné de grammage, et moi je lui ai dit non, là j'ai besoin de cadre. À un moment donné, je lui ai dit j'ai besoin de cadre, j'ai besoin que tu m'aiguilles sur telle ou telle quantité. Et là, quand j'en ai parlé sur Internet, on m'a dit « Est-ce que tu peux me dire… » Non, en fait, c'est pas à moi de te dire ce qui est bon pour moi, que ça sera bon pour toi, pas du tout, tu vois. Donc, c'est vrai que les gens, comme moi, j'ai pu faire, hein, font des transferts, ce que je comprends. Et c'est pour ça que j'essaye de pas du tout être vecteur de comparaison. Et
c'est vrai que sur les réseaux, c'est difficile.
Je cache des choses ou quoi, ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas envie de devenir un danger pour les gens qui me regardent, en fait. C'est ce que je dis sur Internet, c'est, enfin, ça a une importance pour moi. C'est pas anodin de parler de santé. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on véhicule, et j'essaye vraiment d'être au maximum très attentive à ce que je dis. Même des fois, je refais mes phrases parce que Antoine me dit pourquoi tu refais ? Ah non, mais j'ai dit qu'on allait manger chinois, on va me dire que je suis raciste.
Ah oui, d'accord.
Asiatique. Parce que si je dis je vais manger chinois, on va me dire que je suis raciste. Et en fait, j'en suis venue à refaire des trucs comme ça, tu vois.
Ah, mais tous, hein, je pense qu'on est tous venus. Parce que moi, quand j'ai fait une vidéo pour dire qu'est-ce que je mange en magasin, qu'est-ce que j'achète en magasin exotique, laisse tomber les commentaires que j'ai eus disant exotique, c'est complètement raciste de dire ça. C'est pas un magasin exotique, en fait. Exotique, non, ça fait. Moi, je savais pas qu'on vous disait pas. C'est marqué en gros magasin exotique. Donc moi, évidemment, je le dis. Mais bon, apparemment, c'est complètement raciste. Donc je pense que tout créateur de contenu aujourd'hui doit toujours se reprendre parce qu'on ne peut plus rien dire de toute manière aujourd'hui.
Il y a 5 ans,
on faut dire yel, faut dire truc, on comprend plus. Moi, je suis perdue. Tous ces trucs, c'est.
Du coup, j'ose même plus parler. Bah, moi, j'ose même plus dire la femme, l'homme.
Tu sais plus
parce que tu te dis, on va me dire. Et en fait, quand toi, tu ne t'es pas renseigné sur tout, parce qu'on se renseigne pas sur tout, bah, t'as l'impression d'être ignorant dans un monde de.
Qui va trop vite.
Et parfois, oui, mais nous aussi, parfois, moi, je me dis, truc, la femme a ses règles. Puis après, quand je vois les amis, tu sais, les gens sur YouTube qui ont dit, les femmes ont leurs règles, et tout le monde en dessous, il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Là, je suis là, ah oui, mais attends, il faut que je me renseigne, parce qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, surtout. Et pour la santé, c'est pareil, il faut faire attention à tout. Donc, autant ça, c'est plus facile pour moi, parce que je me renseigne dans ce milieu-là, puisque c'est mon métier et que c'est ma passion. Mais comme le non-binaire, etc., c'est pas passion, bah du coup, t'étais là, ah, faut faire attention, en effet, à tout ce qu'on dit. Bref, juste pour, avant de finir quand même, tu es en couple.
Oui.
Tu vis avec Antoine. Comment ça se passe pour vous ? C'est-à-dire que toi, tu fais un rééquilibrage alimentaire quelque part avec la diététicienne. t'apprends du coup beaucoup de nouveaux comportements, etc. Lui, il te suit. Lui, il achète quand même ses produits habituels. Lui, il mange ce qu'il a envie de manger. Il fait à manger tout seul. Comment ça se passe chez vous ?
Non, lui, on n'a pas du tout la même vision de l'alimentation. En général, j'essaie toujours de faire... alors, lui, il mange peu de légumes. Mais par exemple, hier, j'ai fait steak haché riz. Et puis moi, je me suis rajouté une soupe à côté. Enfin, voilà, j'essaie de mixer pour qu'il mange. Ou alors parfois je fais complètement deux trucs différents. Parfois. Ou alors je fais un gros plat pour lui, genre où lui se fait parfois à manger aussi. Hein, il fait genre des spaghettis bolo qu'il va manger sur plusieurs repas. Et puis moi je me ferai autre chose. Mais ouais, ça on est complètement. Parfois oui, on peut pendant une semaine pas du tout manger la même chose, sérieux.
Parce que lui, l'alimentation saine, c'est pas un sujet ?
Non. Non. Non.
Mais c'est intéressant parce que souvent on nous le dit, oui mais c'est compliqué quand ton conjoint ne veut pas. Est-ce que toi tu trouves ça compliqué ?
Bah moi en fait je fais ce que je veux, je suis une grande fille. Je suis pas obligée de manger comme lui, je mange avec lui, je partage le moment avec lui. Mais je suis pas obligée d'avoir la même chose dans mon assiette quoi.
C'est ce qu'on dit tout le temps. Peu importe que ton conjoint il fasse à manger un truc différent, moi le principal c'est qu'on soit tous à table ensemble.
Donc, c'est ça. Après,
moi c'est comme ça que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire il y a quelques années, puisque moi mon conjoint pareil c'était... l'alimentation santé, c'était... Il trouvait que c'était une lubie, un truc complètement fou.
Le mien aussi, en 9 ans, voilà. 9 ans derrière, c'était... C'est une mode, Isadora.
Voilà, et donc c'est vrai que moi, je faisais à manger pour nous deux. Donc moi, je faisais exactement ce que moi, je voulais manger, je le faisais pour nous deux. Après, je lui disais, si tu n'as pas envie de manger ça, tu es un grand garçon, donc tu sais où est la cuisine, tu mangeras, tu peux te préparer quelque chose. Et au début, il se faisait quelque chose, souvent, il mangeait la même chose que moi, mais il rajoutait, par exemple, de la viande, un truc par-dessus. Mais au moins, on partageait le moment ensemble. Ça, c'était pour moi impératif. C'est pas chacun mange de son côté. On est une famille, entre guillemets, donc on mange ensemble. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'il a commencé à arrêter, lui, de rajouter ces trucs parce qu'il s'est dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est pas dégueulasse, quoi. Mmh. Donc c'est bon. Et quand on s'est séparés, lui, aujourd'hui, il était parti beaucoup plus loin. Il était vraiment parti dans l'extracteur de jus, le truc de dingue, que moi, je n'avais même pas encore à l'époque. Donc lui, ça lui avait vraiment ouvert
le
truc.
Et puis lui, il aussi dans le côté, plus manger de viande du tout. Alors,
ah oui, oui, oui.
C'était un
viandard de fou. Donc lui, il avait commencé vraiment à prendre beaucoup de conscience. Donc, et comme j'ai fait l'épisode de podcast avec Samuel aussi, c'est de se dire que juste en nous regardant... Il y a des choses qui, malgré tout, qui rentrent dans leur tête, mais ils n'ont pas forcément... C'est son chemin à lui, quoi. Moi, je ne peux pas imposer un chemin qui est le mien à quelqu'un d'autre qui a son propre chemin. Après, si on peut partager le moment, c'est déjà énorme, je trouve. C'est important.
Et sans jugement. On partage le moment ensemble sans jugement. Notre sujet de conversation n'est pas ce que je suis en train de manger.
Voilà.
Ce que toi, tu es en train de manger, quoi.
Ouais.
Oui, moi, je n'ai pas envie qu'on m'impose quelque chose, donc je n'ai pas envie de lui imposer quoi que ce soit. S'il a envie de changer d'alimentation, un jour, il le fera, mais voilà.
Non, mais c'est clair. Souvent, on dit... Il faut, c'est comment on dit ? On est un exemple pour une personne, mais il faut pas imposer ses choix, quoi. C'est soit tu es un exemple et il le suivra peut-être plus tard, soit pas du tout et c'est comme ça.
Mais du coup, ça veut dire que là, ton chemin du rééquilibrage alimentaire, de l'alimentation saine, ça a duré comme ça sur la durée ou parfois tu te dis j'abandonne ?
Non, moi en fait, ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, c'est pour que ça reste. C'est pas pour 6 mois, quoi. C'est vraiment, je veux changer ma relation à l'alimentation et que ça devienne normal, je dirais, tu vois. Que ce soit, comme pour moi, ça a été normal de manger en cachette pendant des années. Je m'en rendais pas compte que c'était pas, qu'il fallait pas le faire. Mais pour moi, ça me faisait du bien, ça, à ce moment-là. Et c'est vrai que j'apprends plein de choses, je découvre des choses. J'avais essayé l'aubergine. Alors la première fois, je l'avais bien aimée, la deuxième fois, j'ai dû la rater parce que c'était pas bon. Mais finalement, en fait, je me suis aperçue que l'aubergine, j'aimais pas ça avant et puis que maintenant, c'est un légume que j'aime bien. Donc voilà, j'essaye de changer un peu de fusil d'épaule, on va dire. Et puis voilà, je prends le temps qu'il me faut et... Je suis persuadée que ça marchera. Il n'y a pas de raison.
Moi, je trouve ça intéressant parce que cet épisode de podcast, c'était aussi pour montrer qu'un chemin, c'est justement ce que c'est un chemin. Et parfois, sur les réseaux, on a tendance à croire parce que c'est vrai qu'un reel, c'est très rapide. Donc, l'avant-après, en 30 secondes, c'est faisable. Mais dans la vraie vie, un chemin, ça peut être très, 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 très long. Parfois, ça peut prendre toute une vie. Parfois, ça va prendre 10 ans, 5 ans. Et n'oubliez pas que les personnes, parfois, qui montrent aussi leur avant-après, ne montrent jamais le chemin qu'elles ont fait, parce que c'était il y a 20 ans, elles étaient comme ça, et elles ne montrent pas tout le chemin que ça a été dur, mais quand on a des comportements alimentaires qui sont ancrés en nous depuis tellement d'années, c'est très difficile, c'est pas en un claquement de doigts ou en une formation perte de poids qu'on peut y arriver, ça c'est impossible.
Mais après ça désespère, parce qu'on ça se dit, ah ben si en 6 mois j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé, tout de suite... On déprime, on se dit que c'est soi le problème, alors qu'en fait, c'est aucun problème, c'est juste, c'est un peu plus long pour certaines personnes, un peu moins long, et c'est même pas un peu plus ou un peu moins,
c'est des habitudes à mettre en place et des habitudes à se débarrasser qui sont finalement pas, c'est pas évident pour tout le monde. Et pour conclure, toi, tu dirais quoi aux personnes qui te baratine avec ce no pain no gain? En gros, c'est non mais attends, tu t'es regardé toi, t'as juste à manger sainement et on n'en parle plus.
Ah oui, non mais alors ça, je le vois même sous beaucoup de vidéos. Dès qu'il y a des vidéos comme ça sur des personnes obèses, je regarde les commentaires et c'est tout de suite qui revient. Mais mettez les chaussures de cette personne et endurez ce qu'elle vit, et après on verra si vous arrivez à faire mieux. Et puis je pense que ces personnes là et j'en suis quasiment certaine, sont frustrées d'elles-mêmes, de leur propre vie. Et en fait, elles rejettent ce qu'elles n'arrivent pas, elles, forcément, à entreprendre sur les autres. Parce que je pense que les personnes qui nous donnent des conseils, ils ne mangent pas les trucs à la racine. Hein. Je ne pense pas. Donc, voilà, faut prendre ça avec légèreté. Je l'ai pris pendant un petit moment, ça m'avait un peu saoulée. Et là, en fait, je me rends compte qu'en partageant, voilà, comme hier, j'ai partagé tout bêtement le fait que j'ai pas terminé mon assiette. J'ai eu tellement de témoignages de personnes qui ont la même problématique que moi. Et ben, en fait, je me dis que je vais peut-être plus le faire, même si ça peut être sujette à plus de critiques. Je m'en fous. Voilà.
Ouais, les gens, moi, je pense qu'il faut qu'ils n'oublient pas. Que derrière chaque personne il y a une histoire de vie, et que ce que l'on voit sur une photo figée sur Instagram, c'est forcément une jolie photo ou bien voilà, mais que derrière il y a un passé, et qu'on a tous nos histoires de vie, et que on a tous nos blessures. Et donc une personne qui partage quelque chose avec elle, prenez juste qu'elle partage. Ne venez pas dire oui mais tu devrais. Je pense que toute personne aujourd'hui, hein, toute personne au monde sait que pour être mince, être fine, il faut faire du sport et manger sainement. Je pense que tout le monde le sait. Après, c'est les histoires des gens qui font que c'est plus difficile pour d'autres que... Voilà. Donc n'oubliez pas que derrière des êtres humains que vous voyez sur Instagram, il y a des histoires et des souffrances que vous ne connaissez pas au quotidien, peut-être que vous n'avez jamais connu non plus.
Oui, mais les gens, ils ont des curiosités malsaines. Moi, une des questions qu'on me pose le plus, c'est pourquoi tu parles jamais de tes parents ? Bah, en fait, à un moment donné, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des storytime pour faire des vues, et voilà, mais moi j'ai du respect pour mes parents, peu importe mon passé, et j'ai pas envie de les afficher sur internet.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Ils me regardent.
C'est vrai que les gens, ils attendent, comme on leur ouvre les portes quelque part de notre intimité, et c'est vrai que Karim disait souvent, l'alimentation c'est très intime. L'alimentation, c'est. Il n'y a pas plus intime que l'alimentation, à part bien sûr le sexe.
La bagatelle, on va dire. La bagatelle.
Parce que l'alimentation, c'est de l'émotion. C'est en effet, c'est une histoire.
C'est de l'amour aussi.
C'est de l'amour ou pas d'amour, tu vois.
Oui.
Il y a ça aussi. Donc parfois, quand on les invite chez nous dans nos assiettes, c'est un peu notre intimité. Et donc, ils se disent, on peut se permettre d'aller plus loin. Puisque on partage quelque chose d'intime, mais non, on partage ça, c'est déjà beaucoup. Parce que nous, on parle de notre alimentation, même sur ici ou sur YouTube, etc. On est toujours obligé de rappeler aussi parfois nos parcours de vie. Pourquoi j'ai eu la maladie de Crohn? Ah oui, mais est-ce que j'ai fait des angoisses? Pourquoi j'ai fait des angoisses? Ah, parce que donc à chaque fois, il faut que je rappelle une petite histoire de ma vie personnelle que je prends plaisir à partager. Il y a aucun souci, mais on va pas me demander en plus au fait pourquoi.
Quelle est ta position préférée?
Non, voilà. Mais on veut tout savoir aujourd'hui parce que c'est la société qui est comme ça, parce que les gens déballent tout, parce que ça fait des vues. Mais moi, mon but, c'est pas de devenir une star de YouTube. C'est pas mon métier premier, moi, de faire des vidéos. Je fais ça vraiment ça existe comme vous. Vous faites ça pour le plaisir de partager. Et il y en a encore, hein. Ça existe. Il faut juste suivre les bonnes personnes, faire le tri dans ses abonnements, c'est très important aussi. Mais tout ce que vous voyez sur Internet, c'est pas, vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir donner une expertise ou un diagnostic sur quelqu'un, parce que là, on relève vraiment du diagnostic sur certains. Il y a des choses dont je vous ai parlé concernant, voilà, que je ne dirai jamais sur Internet parce que ça ne regarde personne, quoi. Et voilà. Donc, non, il faut faire les choses pour soi et faire ce qui nous fait plaisir, surtout.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène. C'était super chouette de t'entendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment abordé sur le podcast, le parcours aujourd'hui, en fait, du rééquilibrage alimentaire. Donc, c'est facile pour nous d'en parler. Faites ça. Et parfois, je me dis, ça nous ramène un peu d'humilité aussi, de se dire, c'est facile pour nous de dire, prenez un smoothie. C'est si simple. Mets des épinards dans ton smoothie le matin. C'est facile parce que c'est une habitude pour nous qui n'était pas une habitude à l'époque, mais comme on a fait les vidéos où c'était déjà une habitude, on n'a pas eu le partage.
Mais c'est aussi facile pour nous parce que nous, on a une éducation alimentaire très forte. On a une maman qui nous a fait tout maison, etc. Oui, et on n'a pas eu.
Elle nous a mis la pression, hein.
Oui.
Pour faire pareil après.
Et nous, on n'a pas vécu de traumatisme en tant qu'enfant. On a, tu vois, au bout d'un moment, quand tu commences à. C'est vrai, une vraie leçon d'humilité au bout d'un moment de faire ce métier-là et de se rendre compte que, toi, tout ce que tu dis, tes petits conseils, c'est bien. Ils sont. Oui, les gens les entendent, hein, tes conseils, mais les appliquer, c'est pas facile pour tout le monde, mais parce que nous on n'a pas eu tout ce que voilà, bref, donc c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir discuter avec d'autres personnes et de se rendre compte que on n'est pas tous pareils et qu'on a tous une histoire différente et qu'il faut vivre avec.
Et est-ce que pour toi l'alimentation saine, juste pour finir, ça fait 20 fois que je dis ça,
oui.
C'est un combat ou pour toi c'est pas un combat, c'est plutôt un challenge?
Alors, j'ai appelé mes vlogs challenge perte de poids. C'est vrai parce que pour moi, c'est un peu le challenge de ma vie parce que j'ai toujours été obèse. J'ai toujours eu du poids. Mais pour moi, en fait, j'ai envie que ça devienne une habitude, quoi. Tu vois. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, est-ce que je ne devrais pas changer le nom? Et puis, je me suis dit, non, j'ai commencé avec ça, c'est qu'il y avait une raison. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est le challenge de ma vie. Donc, je ne vais pas mettre challenge de ma vie, c'est un peu bizarre. On va rester sur ça, mais non, oui, c'est le plus gros combat de ma vie, ça c'est certain. Après, voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais oui, si, c'est un challenge pour moi.
Et ben merci beaucoup, Hélène.
Merci.
Merci à vous de m'avoir invitée, ça m'a fait très plaisir, d'autant que je vous aime beaucoup, vous le savez.
Bah, nous aussi,
voilà.
Tu nous fais ta facture voilà, à la fin, pour qu'on puisse te payer de nous avoir d'avoir dit ça.
Les vrais comprendront.
Ouais.
À bientôt, très bonne écoute.
À bientôt.
Au revoir.
T'as pas dit bisette. J'ai pas dit, mais je.
Marisa, tu dis pas au revoir à nos auditeurs.
Bah dis donc, Marisa. nos auditeurs, on dit quoi? À la prochaine.
À bientôt pour un prochain épisode.
À plus, voilà.
C'est ça que j'ai oublié.
À plus.